Les médias sont contrôlés pour une partie, soit par la pub, soit par les mêmes groupes. Donc ça monte aussi des fois un problème d'indépendance.
Radio Courtoisie.
Indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Alexandre de Galzin.
Bonjour à tous, chers auditeurs. Merci d'être avec nous ici ce matin chez Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie. Nous sommes le jeudi 28 mai et aujourd'hui, je suis accompagné d'Alice Meunier. Bonjour Alice.
Pardon.
Voilà, et puis pas seulement Alice Meunier, étant donné qu'il y a également Magda d'Hautefeuille. Le croyez-vous ? Bonjour Magda.
Bonjour Alexandre.
À la technique, c'est Arnaud. Bonjour Arnaud.
Bonjour à tous.
Voilà, alors tous les micros s'allument avec un quart de seconde de retard à chaque fois. Il est en train
J'ai des choses à faire.
Exactement, il est occupé, Arnaud. Alors aujourd'hui, effectivement, nouvelle émission. Comme je vous l'ai annoncé hier, on va rester plus sur le plan national, chers auditeurs. On va parler d'abord d'électrification. Alors, est-ce que c'est la solution magique ? C'est la question qu'on posera à Fabien Bouglé, qui est spécialiste donc de la politique énergétique, spécialiste du nucléaire aussi, directeur de publication de la revue Transition Énergie. Posera la question alors que Macron vient de dévoiler son nouveau plan. Et puis à 7h25, nous recevrons Grégoire Pupinck qui nous parlera de l'euthanasie. Est-ce que finalement c'est le barreau d'honneur des conservateurs ? Est-ce que c'est un combat perdu d'avance ? C'est la question qu'on lui posera. On sait qu'on aime bien garder l'espoir à ligne droite, donc à voir effectivement ce qui, de quoi il en retourne. Et puis à 8h20, eh bien, nous recevrons Jean-Yves Le Gallou qui nous parlera du sommet de la remigration, une nouvelle nécessité, un nouvel espoir pour l'Europe. Et enfin, à 9h05, chers auditeurs, soyez bien présents. Jean Messia répondra à toutes les polémiques qui pèsent actuellement sur lui. Il est accusé d'avoir détourné plus de 100 000 euros de cagnottes participatives qui devaient servir à des patriotes. Il répondra à toutes ces accusations et en exclusivité ici sur Ligne Droite. Mais tout de suite, un point sur l'actualité avec Alice Meunier.
Chers auditeurs, à l'occasion de l'Aïd el-Kébir, des appels à la prière islamique diffusés par haut-parleurs ont résonné dans plusieurs villes françaises, provoquant la colère de nombreux riverains. À Bry-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, des habitants et des enseignants d'un collège ont été réveillés et dérangés pendant plus d'une heure par une diffusion continue et à haut volume de prières. Le maire Charles Azlagul a dénoncé un niveau sonore excessif et a saisi la préfecture. La République garantit la liberté de culte, mais n'autorise pas à inonder littéralement les villes d'une sonorité religieuse. C'est intolérable. Même situation à Nantes, où des haut-parleurs ont diffusé l'appel à la prière sur plusieurs kilomètres dès 6h du matin, entraînant une trentaine de signalements. Et à Marseille, à la Calolle, ils ont entendu ceci.
La première fois qu'on entend ça sur Ligne Droite, quand même. Ça va, vous amusez bien Alice.
Oui, donc l'appel du musicine a résonné de 22h à 1h du matin dans tout le quartier de la Cayolle. Des scènes qui interrogent sur le respect de la laïcité et du cadre républicain. Pour certains, il ne s'agit plus simplement d'exercice du culte, mais d'une affirmation sonore qui s'impose à tous.
Voilà, et vous voyez qu'on vous entendait même ça sur les ondes de Ligne Droite de Radio Courtoisie. Et puis le meurtrier d'Alban Gervaise va retrouver une grande liberté dans les prochains jours.
Alors oui, tout d'abord, rappelons les faits. En mai 2022, Mohamed El poignardait à mort Alban Gervaise, médecin militaire de 40 ans, devant une école catholique à Marseille, un acte d'une extrême violence commis en pleine rue et en plein jour. En juin 2025, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence déclarait Mohamed El pénalement irresponsable pour troubles psychiatriques. Il était interné en hôpital psychiatrique sous contrainte. Mais ce régime d'hospitalisation complète touche à sa fin. Selon des sources proches du dossier, les psychiatres ont décidé, avec l'accord de la préfecture, de passer à un programme de soins allégés. Concrètement, Mohamed El sera à l'hôpital de jour du lundi au vendredi, mais pourra rentrer chez lui tous les soirs et tous les week-ends, très vraisemblablement chez ses parents à Marignane, dans les Bouches-du-Rhône. Un traitement médicamenteux lui a été prescrit. Et en cas de non-respect de ses obligations de soins, le préfet pourra ordonner une réhospitalisation d'office. Cette décision intervient moins de 3 ans après le meurtre d'un militaire français tué froidement devant un établissement scolaire. Elle relance le débat sur l'irresponsabilité pénale et la capacité de notre système à protéger durablement la population face à des individus jugés dangereux.
Et que se passe-t-il en Hongrie ?
Eh bien, le Parlement a rejeté ce mercredi le projet de sortie de la Cour pénale internationale souhaité par Viktor Orban. Une large majorité des députés a voté contre ce texte présenté en 2025 par l'ancien premier ministre nationaliste. Orban voulait ainsi affirmer la souveraineté hongroise et soutenir son allié israélien Benjamin Netanyahou, visé par un mandat d'arrêt de la CPI. Ce vote marque un revers pour Viktor Orban. Il avait fait de cette sortie une question de principe, refuser qu'une juridiction internationale non élue puisse poursuivre des dirigeants démocratiquement élus, notamment dans le contexte du conflit à Gaza. Malgré son influence encore forte, Orban n'a donc pas réussi à convaincre la majorité de parlementaires hongrois de franchir ce pas. La Hongrie reste donc la Cour pénale internationale, une institution régulièrement accusée par ses détracteurs de partialité et de politisation. Ce dossier illustre une nouvelle fois des tensions au sein même des pays d'Europe centrale entre la défense et la souveraineté nationale et les engagements internationaux.
Et une mauvaise nouvelle pour Duralex.
Oui, alors moins d'un an après avoir levé plusieurs millions d'euros auprès des Français, Duralex s'apprête à demander son placement en redressement judiciaire. C'était présenté comme une belle histoire française, la célèbre verrerie sauvée par ses salariés devenus actionnaires via une SCOP et avait réussi une grande souscription populaire qui avait récolté plus de 20 millions d'euros et de promesses. Les Français avaient massivement répondu présent pour préserver ce fleuron de l'industrie tricolore, connu pour sa vaisselle incassable. Mais ce mercredi, le couperet est tombé. Selon plusieurs sources concordantes, l'entreprise de 243 salariés basée à La Chapelle Saint-Mémin est dans une impasse financière. Des choix de gestion jugés hasardeux, voire dangereux, ont pris rapidement replonger la société dans de graves difficultés malgré des contrats énergétiques sécurisés. Le départ brutal de François Marciano, figure de la reprise, et de son fils n'a pas suffi à redresser la barre. Une nouvelle fois, c'est tout un symbole de l'industrie française qui vacille. Après l'enthousiasme populaire et le soutien des collectivités, le président de la région Val-de-Loire, François Benoît, a exprimé son inquiétude pour l'outil industriel et tous ceux qui ont cru au projet.
Et pour Roland Garros?
Eh bien, Quentin Alice remporte avec autorité son duel franco-français contre Hugo Humbert pour retrouver le troisième tour.
Et puis, vous nous parlez rapidement de la météo.
Oui, alors dans l'après-midi, les maximales seront de 29 degrés sur le Grand Est, 31 pour les Hauts-de-France, 28 en Normandie, 34 en Île-de-France et de 26 à 36 autour du Golfe du Lion. Et nous célébrons en ce 28 mai Saint-Germain de Paris et Sainte-Ripsimée, vierge romaine martyrisée en 301 en Arménie.
Merci Alice.
Ligne droite.
Magda, vous décryptez ?
Exactement. Alors, chers auditeurs, plusieurs pays européens commencent enfin à durcir leur politique migratoire. Mais pendant ce temps, la France, elle, reste paralysée par ses hésitations politiques et ses blocages administratifs. Le 26 mars dernier, le Parlement européen a validé un nouveau règlement ouvrant la voie à la création de centres de retour pour migrants clandestins situés hors du territoire européen. Alors, concrètement, ce sont des plateformes installées dans des pays tierces pour accueillir les clandestins expulsés de l'Union européenne avant leur retour vers leur pays d'origine. L'idée est simple, arrêter enfin ce scandale permanent où des centaines de milliers d'obligations de quitter le territoire sont prononcées sans jamais être exécutées. Aujourd'hui, dans l'Union européenne, moins de 20% des décisions d'expulsion sont réellement appliquées. En France, les OQTF tournent autour de 140 000 par an, avec des taux d'exécution souvent inférieurs à 10%. Autrement dit, l'État prononce des expulsions qu'il est incapable de faire respecter. Face à cela, plusieurs pays européens ont décidé d'avancer. Le Danemark, l'Autriche, l'Allemagne ou encore les Pays-Bas soutiennent désormais ouvertement ces centres de retour externalisés. Giorgia Meloni en Italie avait déjà ouvert la voie avec son accord conclu avec l'Albanie. Même l'Union européenne commence à reconnaître la réalité trop longtemps niée que sans contrôle réel des frontières et sans capacité d'expulsion, toute politique migratoire devient fictive. Et pendant ce temps-là, la France, elle, hésite encore. Comme par hasard, Emmanuel Macron s'est montré très réservé et en retrait sur ces dispositifs, pendant que d'autres pays cherchent des solutions concrètes. Résultat, la France risque surtout de devenir encore une fois le maillon faible ou la faille du système européen. Même le ministère de l'Intérieur alerte désormais lui-même sur le risque d'afflux d'entrées irrégulières si la France n'adapte pas rapidement son droit au nouveau pacte migratoire européen qui doit entrer en vigueur le 12 juin prochain. Problème, le gouvernement n'arrive même plus à faire voter les textes nécessaires au Parlement. L'Europe commence progressivement à durcir sa doctrine migratoire sous la pression des réalités sécuritaires, sociales et démographiques. tandis que la France reste paralysée entre blocage juridique, prudence idéologique et incapacité administrative. Un État qui ne contrôle plus réellement ses frontières, qui expulse très peu, qui peine à appliquer ses propres décisions administratives et qui dépend désormais de mécanismes européens pour tenter de reprendre la main, montre surtout un pouvoir qui subit davantage qu'il ne décide, et pendant que les passeurs, eux, s'adaptent très vite aux nouvelles routes et aux failles du système, les institutions françaises continuent de produire des procédures, des délais et des blocages. Le risque aujourd'hui, c'est qu'à force de retard, d'hésitation, d'idéologie et d'impuissance politique, la France devienne la passoire migratoire de l'Europe occidentale.
Merci Magda.
Ligne droite. Debout les Français.
Et pour ce premier entretien, nous allons parler électrification. Est-ce que c'est la solution magique ? C'est en tout cas un petit peu ce que suggère Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui, très récemment, a réalisé une réunion avec ce qu'il a appelé eh bien, l'équipe de France de l'électrification pour signer un pacte national d'électrification. Et pour parler de ce sujet, eh bien, nous avons fait appel à Fabien Bouglé. Bonjour Fabien Bouglé.
Bonjour.
Alors vous êtes expert en politique énergétique, directeur de publication de la revue Transition et Énergie, auteur de plusieurs ouvrages hein, également, mais là, ce que vous publiez donc avec votre revue Transition et Énergie, c'est un nouveau numéro qui s'appelle voilà, « Les ennemis de l'intérieur ». Merci Arnaud de l'afficher à l'écran, dans lequel effectivement eh bien, vous revenez sur tous ceux qui, quelque part, représentent un danger au sein même de notre pays, à commencer par Emmanuel Macron lui-même.
Tout à fait.
Voilà, on reviendra peut-être un petit peu plus tard sur ce sujet, simplement, pour venir tout d'abord sur le cœur de cette question de l'électrification. Donc, ce pacte national d'électrification d'Emmanuel Macron, il arrive évidemment après à peu près 9 ans de mandat à tergiverser quant à la marche à suivre. Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Bah écoutez, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, c'est encore le pompier pyromane. L'électrification des usages, c'est bien si on prend en compte le fait que la facture d'électricité n'est pas chère. Or, depuis 2014, la facture d'électricité a été multipliée par 2. Et rappelez-vous, Sébastien Lecornu a annoncé et a promulgué la programmation pluriannuelle de l'énergie qui prévoit, et c'est un calcul que nous avons fait avec les différents experts sur les questions énergétiques, à nouveau une multiplication de la facture d'électricité par 2. Mmh. Et donc, décréter l'électrification des usages, décréter les interdits des chaudières à gaz, décréter l'obligation d'acheter des voitures électriques n'a de sens que si la facture d'électricité est basse.
En réalité, il n'y a pas d'obligation en réalité, c'est plutôt
vous allez
objectifs de long terme. Mais
non, vous allez avoir l'interdiction des centrales au gaz et de l'usage du gaz. Mmh. Hein, c'est d'ailleurs les entreprises des travaux publics qui hurlent sur cette question. On a une multiplication de l'écologie punitive qui va contraindre et qui va obliger les Français à électrifier des usages pour lesquels une électricité est beaucoup trop chère. Et donc, ça renvoie, parce que tout est dans tout, ça renvoie à la question de la guerre de l'énergie. Parce qu'en réalité, ça fait 10 ans qu'on est en train de subir globalement une guerre de l'énergie. On a eu le choc gazier de 2021, on a eu la guerre en Ukraine, on a aujourd'hui la guerre en Iran. Et on a quoi ? Eh bien, on a une situation catastrophique. Mmh. On a d'une part les Français qui payent une essence toujours plus élevés à la pompe, avec des taxes qui s'imputent sur les factures d'essence. Et de l'autre côté, on a une facture d'électricité qui explose du fait, non pas de la guerre en Iran, non pas de la guerre en Ukraine, non pas du choc gazier, encore qu'un petit peu le choc gazier, mais du fait de nos politiques depuis 30 ans. Mmh. Et donc, en réalité, ce à quoi nous sommes en train d'assister avec ces pompiers pyromanes, avec ces Marie-Antoinette de l'énergie. Je pense à cette phrase qu'on propose à Marie-Antoinette de dire « Vous ne pouvez pas manger de pain, mangez donc de la brioche ». Là, Macron, c'est « Vous ne pouvez pas utiliser de voiture à essence, utilisez des voitures électriques ». Mmh. Les voitures électriques, c'est 7 fois, 8 fois le prix d'une voiture essence. Et donc, on est, depuis 30 ans, enfin peut-être 5 fois, mais ça coûte très très cher. Demander à quelqu'un du monde rural d'acheter une voiture électrique, aujourd'hui il est tellement rincé qu'il ne peut pas. Et aujourd'hui, en fait, tout cela est la conséquence de cette guerre de l'énergie et de l'action des ennemis de l'intérieur, hein, des ennemis de l'intérieur que nous avons dévoilés, que nous dévoilons avec une synthèse d'un grand dossier, qui est aussi la reprise d'éléments de plusieurs livres, parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Guerre de l'énergie », Géraldine Vossner du Point a écrit un livre « Les illusionnistes », Henri Vallard a écrit également un livre sur le sujet. Nous avons, depuis 30 ans, des ennemis de la France qui agissent et qui détruisent notre système énergétique, système électrique et système énergétique. Et c'est ça qui est extrêmement grave, et Emmanuel Macron fait partie de ces personnes qui ont contribué à la destruction de notre système.
Alors, on sera tout à fait d'accord là-dessus. En revanche, il y a une question qui se pose, c'est quand même que depuis quelques années, objectivement, depuis ces fameuses rencontres de Belfort, Emmanuel Macron s'est remis à évoluer dans un sens qui est plutôt positif. Je dis pas que ça s'est traduit par de grands actes et que les résultats sont là, mais dans le fond, on a changé un petit peu de l'État, a changé un petit peu de philosophie au moins sur la question du nucléaire, en voulant déployer des mini EPR, effectivement achevant la centrale de Flamanville, en mettant d'autres objectifs un petit peu plus de long terme sur la production nucléaire. Dans le fond, est-ce que certes on va pas trop lentement, mais est-ce qu'on va pas dans la bonne direction finalement?
Ben, vous croyez, on vient d'annoncer la continuation de du démantèlement tellement de Fessenheim. Mais attendez,
les Fessenheim, ça fait des années que c'est fermé.
Mais Fessenheim est encore possiblement en relance. Là, il y a eu des arrêtés pour finaliser le démantèlement de Fessenheim.
Il y a des débats quand même.
Il y a un débat. Non, Fessenheim, moi, vous savez, Transition et Énergie a un conseil scientifique de 8 spécialistes du CNRS, du Commissariat à l'énergie atomique, de Polytechnique, d'anciens dirigeants comme André Merlin, patron de RTE. Nous sommes en relation avec les ingénieurs. Vous ne pouvez pas dire d'un côté « je relance le nucléaire » et de l'autre « acter la fermeture de Fessenheim » qui est une catastrophe économique. Mmh. On a 2 réacteurs nucléaires qui avaient encore 40 ans de possibilités dont le prix est amorti, et aujourd'hui on se retrouve à fermer des centrales nucléaires qui fonctionnent et on va avoir un coût. Non, ça je suis désolé, ça n'est pas une politique de relance du nucléaire. Et par ailleurs, pour les annonces de Belfort et les annonces des petits réacteurs modulaires, vous avez raison, c'est en 2021, lors du plan 2030. Mais ça fait 5 ans.
Oui, mais ça va dans le bon
sens. Mais ça va pas du tout vite. On a une annonce de Belfort en 2022.
Disons que ça va dans le bon sens, mais pas vite.
Mais attendez, Pierre Messmer, quand il lance le plan Messmer en 74, en 15 ans, ils ont construit 58 réacteurs nucléaires. Mmh. 20 ans à peu près. Mmh. Donc si vous voulez, il faut arrêter. Et c'était il y a 50 ans. Donc si vous voulez, on ne peut pas dire, avec la technologie d'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec toutes les possibilités qu'on a aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est une réussite lorsque le président de la République annonce dans les annonces de Belfort en 2022 « on va relancer le nucléaire » et qui nous fait comme annonce on va relancer le nucléaire et on va installer 6 réacteurs nucléaires supplémentaires et 8. Ça fait 5 ans qu'on les a déjà annoncés. Mmh. Il faut d'urgence un plan de nucléarisation de la France, un plan de relance de l'hydrogène. D'ailleurs, j'ai fait un exposé de ma pensée sur la relance. Il faut développer l'hydrogène blanc en complément. Il faut supprimer la loi Hulot. Vous vous rendez compte qu'on a l'incapacité d'étudier les sous-sols français. On a des réserves de pétrole en Guyane. Mmh. On a des réserves de pétrole en France. Donc, si vous voulez, c'est le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'incantations, mais on n'a pas beaucoup d'actions énergétiques.
Je vais recentrer un petit peu sur le sujet de l'électrification, parce que c'est ce qui nous occupait à l'origine. Avec toutes les nouvelles technologies, comme évidemment le Bitcoin, ou alors l'IA, ou alors justement les nécessités justement de, par exemple, les adaptations au réchauffement climatique, ou toutes ces choses-là, avec la climatisation, par exemple, on sent qu'on a quand même de plus en plus besoin d'électricité pour développer toutes ces technologies. Donc, est-ce que l'électrification, de toute façon, c'est toujours le futur dans ce sens-là?
Oui, alors, en fait, ça dépend ce qu'on appelle électrification des usages. Vous avez parfaitement raison. L'électricité pour la France, ça a été un avantage géopolitique considérable. Ouais. Il faut se rappeler le plan Messmer en 1973, j'en parlais tout à l'heure, après le choc pétrolier qui a été lié à la guerre la guerre du Kippour, quand les pays du Moyen-Orient, comme l'Iran aujourd'hui, utilisent le pétrole comme arme de guerre. Le pétrole est multiplié par 4. Et comme la production électrique en France est basée sur les centrales au fioul, eh bien, on va électrifier l'électricité avec du nucléaire pour ne plus dépendre des énergies fossiles. Mmh. Et donc, aujourd'hui, presque 100% il y a un petit pouillème de gaz, mais presque 100% de notre production d'électricité ne dépend pas de nos importations d'énergie fossile. Et ça, c'est l'électrification nucléaire et l'hydroélectricité. Et donc, effectivement, si on élargit ce qu'on appelle l'électrification des usages, c'est-à-dire l'électricité représente à peu près 25% de notre mix énergétique, puisqu'on a besoin d'essence pour le chauffage, pour les transports, pour le chauffage urbain, etc. Eh bien, on va, en élargissant notre capacité d'électricité, en faisant en sorte qu'on remplace l'électricité, le fuel par l'électricité, on va justement
pour le chauffage,
permettre.
Par exemple.
Exactement.
Voilà,
mais il y a d'autres techniques. Il y a la géothermie.
Oui.
Hein, la géothermie qui permet d'utiliser et d'éviter le gaz. Et puis, vous avez effectivement le chauffage. Vous avez différentes techniques. Et ça, c'est une bonne chose. Mais électrifier les usages à partir de bases d'électricité intermittente, c'est une très mauvaise chose. C'est pour ça qu'il faut développer un nucléaire couplé à l'hydroélectricité et des capacités pour les pics de consommation. C'est pour ça, si vous voulez, que on a aujourd'hui une politique énergétique qui oriente vers l'électrification des usages, mais qui donne des réponses qui sont totalement inappropriées et qui vont totalement dans le sens inverse recherché. Parce que derrière ce qui est recherché dans le fait d'utiliser l'électricité, c'est la souveraineté énergétique du pays. C'est de ne plus dépendre de nos importations d'énergie.
Vous faites un petit peu la transition, Fabien Bouglet, parce que imaginons une France où effectivement voilà, le nucléaire se relance et finalement on travaille dans ce sens-là. Je vais prendre un exemple très concret dont on parle beaucoup, les voitures et les camions électriques.
Oui.
C'est-à-dire qu'on sait que par exemple le fret ferroviaire pourrait remplacer une bonne partie des camions si jamais il était développé. Ça, c'est dans le nucléaire. En revanche, pour les voitures, est-ce que l'autonomie dans la consommation de carburant, donc d'électricité, pour les voitures, pourrait compenser la dépendance nouvelle qu'on se créerait vis-à-vis des terres rares pour la construction des voitures ?
Ah ben c'est le sujet. Vous avez raison. C'est-à-dire que en essayant de régler un problème, on en crée un nouveau.
Voilà.
Donc,
est-ce que ça
c'est un autre problème.
Ouais.
Ben, c'est l'autre problème. C'est quelles sont nos dépendances avec l'électricité. Mais moi, je crois que, bien sûr, qu'il y a l'électrification des véhicules. Ça, c'est une chose. Mais vous avez tout un tas de... sur les 2500 TWh d'énergie, tout compris, vous avez 2000 TWh. Vous avez, pour les 2000, c'est-à-dire, c'est ces 2000 qu'on va essayer de transformer d'énergie fossile en électricité. Vous avez, comme je le disais, je suis désolé de me répéter, mais vous avez la géothermie qui va permettre d'éviter, et ça c'est sur notre sous-sol. Vous avez l'hydrogène blanc. On a un des plus grands gisements d'hydrogène blanc en Europe, voire dans le monde, en France. Donc on a la capacité, et personnellement, je ne suis pas pour la fin des voitures énergie fossiles. Je pense qu'on aura toujours besoin, le monde aura toujours besoin, sauf si on trouve une pile miniaturisée. On va peut-être demain trouver des systèmes de piles miniaturisées. Mais
ce que vous voulez dire,
aura...
c'est qu'en fait, il ne faut pas sauter sur sa chaise comme un cabri en criant électrification.
Exactement.
Ouais.
Il faut aussi relancer l'étude de notre propre énergie fossile. Il faut qu'on trouve des solutions pour avoir du gaz et du pétrole. Et on en a. Et c'est inacceptable qu'on ait interdit. Et ça, c'est Nicolas Hulot qu'on évoque d'ailleurs dans le magazine Transition Énergie, Guerre de l'énergie, les ennemis de l'intérieur. C'est Nicolas Hulot qui a empêché qu'on étudie. En Guyane, on a une des plus grandes réserves de pétrole mondiale.
Alors ça, c'est quand même très clairement sujet à débat, vous le savez bien, parce que
bien sûr.
Normalement, la plus grosse partie appartiendrait plutôt au Suriname, et en réalité, la partie qui appartiendrait à la France serait quand même très limitée.
Mais... En tout état de cause, il faut qu'on puisse exploiter notre propre énergie fossile.
C'est vrai qu'on ne peut pas savoir, ça, c'est sûr.
Et si on parle d'écologie, hein, Madame Tondelier ou Madame Rousseau, faut-il une énergie beaucoup moins impactante en termes de réchauffement climatique française ou du gaz naturel liquéfié américain qui est deux fois plus polluant que le gaz de schiste qui serait exploité en France. C'est une question aussi climatique. Et puis, se pose la question, faut-il s'interdire d'exploiter nos propres ressources énergétiques dans notre pays alors que la Chine ou les États-Unis sont en train d'exploser leur gaz à effet de serre? Alors, si la France met des éoliennes pour compenser 2% des augmentations de gaz à effet de serre de la Chine ou des États-Unis, à quoi ça sert que la France se tire une balle dans le pied ? Par exemplarité, par souci de sauver la planète alors que les autres sont en train de la détruire. la France ne peut pas rester dans le caniveau de l'histoire, sur le côté. La France doit assumer son rôle de grand pays, et en particulier de grand pays nucléaire.
Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va s'arrêter là-dessus. Fabien Bouglet, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous avez publié donc ce nouveau numéro, si Arnaud peut l'afficher une dernière fois. Voilà, Guerre de l'énergie, les ennemis de l'intérieur. Voilà, chez Transition et Énergie, de juin à août. Donc vous avez 3 mois pour vous le procurer.
Aujourd'hui en kiosque.
Chers auditeurs, voilà, aujourd'hui en kiosque, on a cette
exclusivité. Ou sur notre site internet.
Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt, Fabien Mouglet.
À bientôt, merci.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Alexandre de Galza.
Chers auditeurs, merci d'être avec nous ce matin ici sur Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie. Il est 7h25. À 7h50, ce sera la chronique d'Arthur de Vatrigan. Et puis à 8h15, nous aurons une chronique du collectif Némésis. À 8h20, ce sera suivi par un entretien avec Jean-Yves Le Gallou. Mais tout de suite, on retrouve Grigor Pupin pour parler d'euthanasie.
Ligne Droite. Le grand entretien.
Et pour ce grand entretien, nous avons le plaisir de recevoir Grigor Pupin. Vous êtes juriste et essayiste, directeur de l'ECLJ. Bonjour Grigor Pupin.
Bonjour.
Alors, tout d'abord, le premier sujet que je voulais aborder avec vous, c'est ce thème de l'euthanasie qui est largement effectivement présent dans l'actualité, notamment l'actualité parlementaire. En réalité, la plupart des députés s'ennuient à l'Assemblée, sauf quand il s'agit de traiter ce sujet de l'euthanasie qui soulève quand même bien des débats. Est-ce que c'est fichu, Grigor Pupin ?
Mais bon, pour qui ? Non, je pense que rien n'est décidé. Il y a maintenant un agenda parlementaire qui a été fixé avec une commission mixte paritaire au mois de juin, un vote ensuite au Sénat et à l'Assemblée. Donc encore une navette. Ce qu'on a vu, c'est que le texte, d'une part, bon, dans son contenu est radical par rapport même à ce qui existe dans d'autres pays. Certaines dispositions vont vraiment extrêmement loin. Les promoteurs de l'euthanasie ont voulu pousser leur avantage à l'Assemblée nationale où ils sont majoritaires, le plus loin possible. Et à l'inverse, au Sénat, il y a une majorité qui est opposée au texte et qui donc a permis le rejet à 2 reprises du texte. Donc on a un Parlement qui est foncièrement divisé sur le sujet et sur le texte. Je dirais que le Sénat, il y a quand même une partie importante des sénateurs qui est contre le principe même de l'euthanasie. Et ça, c'est important de le souligner. Tandis qu'à l'Assemblée, il y a une majorité faible, mais encore une majorité, qui est pour une euthanasie et un droit au suicide de façon extrêmement, extrêmement large. Au fil des débats, la majorité qui soutient l'euthanasie à l'Assemblée se réduit. On a vu, entre la première et la deuxième lecture, une vraie érosion des votes en faveur de l'euthanasie. Donc, ce n'est pas terminé. Les discussions continuent au Parlement. Le calendrier est toujours très serré, donc il peut se passer des événements qui retardent la procédure et qui, en fait, la fassent échouer. Et ensuite, il y a encore d'autres étapes par la suite, notamment, on pourra en parler, le Conseil constitutionnel éventuellement, les instances internationales, parce que le texte pose vraiment problème en droit au regard des droits fondamentaux.
Alors, on va d'abord rester un petit peu simplement sur le processus parlementaire. Donc, la commission mixte paritaire, donc un rassemblement de sénateurs et de députés, se réunira mardi prochain, le 2 juin. Donc, est-ce que déjà il y a une possibilité finalement qui trouve un accord, ou alors est-ce que ce qui se dessine, c'est plutôt effectivement, comme vous l'avez décrit, la perpétuation d'une assemblée favorable à l'euthanasie, d'un Sénat opposé à l'euthanasie ?
Voilà, non, la commission mixte paritaire, donc c'est un groupe qui est constitué de représentants de l'Assemblée et du Sénat et qui sont chacun chargés de trouver un texte de compromis entre les deux chambres. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que les deux chambres n'ont pas été du tout capables de s'entendre. Au contraire, elles ont des positions complètement divergentes. Ouais. Et donc, on peut largement en déduire qu'il en sera de même lors de la réunion de la commission mixte paritaire, qui peut être très brève. Hein. Il suffirait en fait qu'ils constatent leur désaccord et que dans ce cas-là, aucun texte ne soit adopté au terme de cette commission et qu'on reparte encore une fois avec le texte tel que voté par l'Assemblée nationale, donc le texte le plus, le texte radical, qui sera ensuite soumis à l'Assemblée le 22 juin. Mmh. Donc le calendrier est déjà fixé et ensuite débattu à l'Assemblée, peut-être modifié à la marge. On ne voit pas trop pourquoi l'Assemblée modifierait encore le texte alors qu'elle a déjà adopté quasiment deux fois en termes identiques. Ensuite, renvoyé au Sénat pour la date du 6 juillet, lequel Sénat pourrait une nouvelle fois rejeter le texte et dans ce cas-là, renvoyer à l'Assemblée pour vote
donc,
définitif.
Là, dans la situation actuelle, il y a déjà eu deux passages au Sénat et deux passages à l'Assemblée, il me semble. Ouais. Oui. Donc, ça signifierait qu'il reste potentiellement deux passages... Enfin, oui, un passage à l'Assemblée, un passage au Sénat et un dernier passage à l'Assemblée. Mais finalement, dans l'optique où le Sénat rejetterait le texte comme il l'a fait par le passé, on voit mal pourquoi finalement l'Assemblée nationale n'approuverait pas... n'approuverait pas son propre texte. C'est-à-dire que, en l'occurrence, je reviens un petit peu sur ma question originelle, mais est-ce que, en tout cas, sur le processus parlementaire classique, sur cette dimension-là, est-ce que c'est pas fichu ?
En fait, ça va se jouer à peu de voix près. Il y a encore des abstentionnistes qui ont préféré donc ne pas prendre position, qui pourraient prendre position finalement dans un sens ou dans l'autre. Donc l'effort des opposants à l'euthanasie doit porter principalement sur ces abstentionnistes ou les personnes qui hésitent, voilà, parce qu'il y a eu des vrais basculements de personnes favorables à l'euthanasie en première lecture à défavorables en deuxième lecture. Donc ça reste possible. Et alors, c'est vrai que c'est difficile.
Alors, sur la question de calendrier aussi, c'est peut-être là que ça peut se jouer d'une certaine façon, parce qu'on sait qu'il y aura les vacances parlementaires donc, au mois d'août, et on sait qu'à partir de septembre, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on risque de tomber sur une nouvelle séquence budget, on va dire couplée à une séquence présidentielle, donc qui éclipserait probablement une bonne partie des sujets liés à l'euthanasie. Pourtant, Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, elle, de son côté, semble obsédée par la question de l'euthanasie. Et donc, ce qui se passe, c'est que depuis quelques semaines, quelques mois, elle répète toujours la même chose sur les plateaux de télévision, c'est qu'elle veut que ce texte soit voté avant, en juillet. Elle le dit à chaque fois, elle veut que ce texte soit voté, elle fait tout pour que ce texte soit voté, parce que ça correspondrait à une attente très importante des Français. Alors, déjà, selon vous, pourquoi est-ce que Yael Braun-Pivet pousse autant en faveur de l'adoption de l'euthanasie? Et ensuite, deuxième question, c'est est-ce que ça correspond évidemment à une forte attente des Français comme elle le décrit?
Voilà, je pense qu'il y a un troisième élément du calendrier qu'on peut ajouter, c'est la visite du pape Léon XIV en France au mois de septembre. On imagine difficilement le Parlement voter l'euthanasie alors que le pape est en France, ce serait un affront. Et d'ailleurs même, moi je ne comprends pas tellement le sens de cette invitation faite par Emmanuel Macron au pape à venir en France en septembre, alors qu'il pousse pour l'adoption de ce texte maintenant. Donc ça me paraît... Donc, s'il y a aussi quelque chose à faire, c'est de ce point de vue-là, questionner quand même l'opportunité, même si j'en serais très heureux, évidemment, que le pape vienne en France, de ce voyage dans ce contexte, parce que c'est quand même assez troublant comme message. Même s'il semblerait que le pape ait prévu d'aller visiter des maisons de soins palliatifs, d'assistance aux personnes malades, etc. Donc, sur le Madame Braun-Pivet et l'obstination à vouloir faire passer le texte, en fait, c'est très simple. Pour les députés les plus idéologues, eh bien, ce genre de texte, c'est un texte qui modifie la civilisation, qui modifie la société en profondeur. Et vous savez très bien qu'une partie de la gauche, la plus idéologique, souhaite... en fait, transformer la société pour l'aligner sur sa conception du monde, de la vie, de la mort. Mmh. Et donc, c'est un texte qui, s'il est passé, va modifier en profondeur notre rapport à la maladie, notre rapport à l'existence. Donc, pour eux, c'est essentiel, parce que, pour cette gauche, la culture, on va dire, domine. Donc, si au moins ils peuvent réussir nous imposer cette transformation, ce changement culturel, et bien pour eux, ce sera un immense succès. Parce que sur les autres terrains, économiques, immigration, etc., c'est un échec complet pour eux. Donc, ce qu'ils ont comme possibilité, ce qui leur reste, c'est cela. Cette loi, elle n'est pas très différente, en fait, des lois sociale ou sociétale, comme on dit, antérieure sur le mariage, la PMA, etc. Pour eux, c'est une loi de civilisation, de société qui change la société. Et c'est pour eux extrêmement important. Et ils ont d'ailleurs parfaitement raison. C'est majeur comme changement social. Et donc, ils sont acharnés parce qu'ils ont une fenêtre d'opportunité. Ça fait quand même 50 ans qu'ils essayent de faire passer ce texte en France. 50 ans qu'ils échouent régulièrement. Là, ils ont l'impression d'avoir une opportunité de le faire. Et ils vont tout tenter. Vous avez vu, au Royaume-Uni, il en a été de même. Ils ont finalement échoué grâce au calendrier parlementaire qui était trop serré. Il y avait eu 7 tentatives au Royaume-Uni. Donc c'est ce mouvement qui promeut l'euthanasie, c'est un mouvement qui est foncièrement acharné, idéologique, qui existe depuis des décennies, depuis un siècle, depuis les années 20, qui a en permanence essayé, qui parfois a obtenu la légalisation de ces pratiques. Et pour eux, c'est maintenant ou jamais. Ils se disent que si, évidemment, il y a un changement de majorité à l'Assemblée en 2027, ce sera terminé pour eux pour une dizaine d'années.
Oui, parce que je voulais faire une petite aparté là-dessus, mais effectivement, ce qui est assez étonnant dans le vote de ce texte pour l'euthanasie, c'est que, évidemment, c'est présenté sous l'étendard du progrès, mais on a l'impression que la France est un des seuls pays à aller en faveur d'une légalisation de l'euthanasie, à aller plus loin dans ce domaine-là, alors que certains pays, certaines législations, au contraire, reculent, se montrent plus prudentes, finalement, après des années d'exercice.
C'est comme la GPA, en fait. On va entendre Gabriel Attal qui est encore en train d'essayer de pousser la GPA.
On en parlera plus tard, c'était prévu, Grégory. Ouais. Vous en faites
alors
pas.
Alors que les pays qui l'ont fait reculent. Ouais. Ceux qui ont l'expérience. Oui, non, nous, là, en fait, on est sur ce sujet, on est complètement. Enfin, les députés, je pense, ont vraiment poussé leur avantage au maximum. Et donc, ils ont rédigé le texte le plus extrême possible en se disant allons loin, on pourra toujours négocier ensuite. Si bien qu'on a un texte qui est fou, ça veut dire que, je le rappelle, une personne peut être euthanasiée simplement parce qu'elle est handicapée, simplement pour souffrance d'ordre psychique, donc pour dépression sévère. Une personne n'est pas nécessairement en état de mort, on va dire, proche. Hein, elle peut encore avoir des années à vivre et obtenir l'euthanasie ou le suicide. La procédure peut être faite en moins de 3 jours. Les proches, la famille, le conjoint, les enfants, les parents n'ont pas un droit à être informés de la demande d'euthanasie. Mmh. C'est le même médecin qui affirme que la personne a fait la demande, laquelle n'est pas nécessairement écrite. C'est ce même médecin qui réalise tout le dossier. C'est ce même médecin qui décide seul, après avoir seulement consulté 2 personnes de son choix. C'est ce même médecin qui réalise le dossier après l'euthanasie et qui le soumet à l'instance de contrôle a posteriori. Laquelle instance de contrôle est composée pour partie de militants de l'euthanasie. Ouais. Donc autant vous dire que tout est fait pour faciliter l'euthanasie.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, si le texte passe tel quel, pour résumer de manière un petit peu schématique, hein, mais à peu près n'importe qui pourra, théoriquement en tout cas, pourra demander à l'euthanasie sans prévenir personne, sans que ce soit vraiment contrôlé par personne, et finalement l'obtenir dans un délai très court et sans recours.
Oui, mais encore une fois, la demande n'a pas besoin d'être écrite.
Ouais.
Et le médecin qui prétend avoir reçu cette demande est celui-là même qui réalise l'acte d'euthanasie.
Ouais.
Après avoir seulement consulté 2 personnes de son choix. Et c'est lui qui réalise le dossier sur la base duquel sera, après la mort, jugé la conformité de l'euthanasie avec la loi par une commission composée de médecins et de militants de l'euthanasie et de 2 magistrats. Mmh. Donc, en fait, vous avez quasiment aucune garantie. Je le dis, si un médecin croyant bien faire interprète certains gestes d'une personne malade, âgée, comme signifiant un désir de mourir. C'était le cas dans l'affaire Lambert.
Oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais y venir exactement. C'est-à-dire que comment est-ce que ça se passe? Parce que si effectivement tout repose sur une demande du malade, mettons, pour faire très simple, une personne qui est paralysée et qui se retrouve dans un état, ou alors qui se retrouve dans un état légume, enfin d'une façon ou d'une autre, en l'occurrence, elle ne pourra pas obtenir l'euthanasie. C'est presque ce qu'il y a de plus étonnant dans cette affaire, c'est que la personne qui théoriquement, hein, je dis pas que voilà, mais théoriquement pourrait y être plus légitime que une personne souffrant de souffrance psychique, en réalité n'aurait pas théoriquement la capacité de le demander.
Sauf si le médecin juge que, d'une manière ou d'une autre, la personne a exprimé cette demande. Dans l'affaire Lambert, je me souviens que des médecins ont affirmé que Vincent Lambert voulait mourir, et ils ont déduit cette volonté du fait qu'il se laissait glisser, ou il glissait dans son fauteuil. Ouais. Donc il disait, oui, c'est la preuve qu'il se laisse aller, regardez, il ne tient plus, il ne veut plus se... Voilà. Et donc, il veut mourir. Pour eux, c'était un signe. Alors évidemment, c'est extrêmement subjectif. Donc le texte n'est pas protecteur des patients, des personnes âgées, vulnérables, qui pourraient aussi subir des pressions pour accepter l'euthanasie. Et tout est entre les mains d'une même personne, d'un même médecin. Ensuite, les personnes qui voudraient ou qui pourraient le protéger, comme je l'ai dit, n'ont pas un droit à être informées. Et deuxio, ils ont interdiction d'essayer de dissuader la personne de mourir.
Ouais, alors ça, pour le coup, c'est toujours sujet à débat, mais c'est-à-dire que le délit d'entrave, donc ce qui est un petit peu ce dont vous parlez à l'instant, donc théoriquement, ça signifie qu'on n'a pas le droit d'empêcher une personne de recourir à l'euthanasie. D'un autre côté, ça signifie pas non plus que il n'y a pas le droit d'être opposé soi-même à l'euthanasie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le droit de déconseiller l'euthanasie. En réalité, c'est comme par exemple pour la question de, je prends la question de l'avortement hein, comme autre exemple, mais sur l'avortement, aujourd'hui, on a tout à fait le droit de dire à une femme non, tu devrais pas avorter, pardon. Selon moi, ce qu'on n'a pas le droit, c'est de.
Vous n'avez pas le droit de dire cela à une femme qui a décidé d'avorter ou qui envisage d'avorter. Ça, c'est un délit d'entrave. Le délit d'entrave, il y a deux choses. Il y a d'une part l'obstruction physique. Donc, oui. Les gens empêchés. Par exemple, vous êtes le conjoint d'une personne qui veut mourir et vous voulez fermer la porte à l'infirmière qui vient avec la piqûre. Oui. Ça, c'est interdit. 2 ans de prison, 30 000 euros d'amende. Si vous voulez protéger physiquement votre proche. Deuxio, si vous voulez la convaincre. De ne pas recourir à l'euthanasie ou au suicide, eh bien, ça devient là très flou, parce que la loi, le texte, prévoit l'interdiction, sous les mêmes peines, d'exercer des pressions d'ordre psychologique. Et qu'est-ce que c'est qu'une pression d'ordre psychologique lorsque vous entretenez une discussion avec quelqu'un pour essayer de la convaincre de ne pas... voilà. Et donc là, dans ce cas-là, c'est la personne elle-même qui décide.
Enfin, pardon, mais Grégoire Poupin, que par exemple, peut-être qu'on en fait trop là-dessus. Enfin, je veux dire, une personne qui veut se faire euthanasier, elle va peut-être pas forcément porter plainte.
Ben, bien sûr. Mais par contre, la loi prévoit aussi, et elle donne de façon exceptionnelle, le pouvoir aux associations militantes en faveur de l'euthanasie, ça veut dire en fait à l'ADMD, d'agir en justice pour vous poursuivre si vous essayez de convaincre un tiers de ne pas recourir à l'euthanasie. Ça veut dire que, par exemple,
Grégoire, vous venez de dire deux choses, je suis désolé, mais pour bien comprendre, vous venez de dire deux choses, c'est-à-dire que, est-ce que c'est interdit d'essayer de convaincre une personne de ne pas recourir à l'euthanasie, ou alors est-ce que c'est interdit de réaliser des pressions psychologiques pour empêcher l'euthanasie?
Là, ce qui est interdit, c'est, dans le texte, c'est d'exercer des pressions psychologiques. Non. Comment, en quoi ça consiste? Est-ce que le fait de parler à quelqu'un pour essayer de le convaincre, lorsque vous avez une relation affective, lorsque vous aimez cette personne, et que vous lui dites « s'il te plaît, ne nous quitte pas, nous t'aimons », etc., c'est aussi interprétable comme, ou qualifiable comme une forme de pression psychologique. Si bien qu'il devient dangereux pour un proche, mais aussi pour une personne de l'équipe médicale, soignante, etc., d'essayer de convaincre une personne. Ça devient dangereux parce que vous êtes susceptible dès lors d'être poursuivi. Pas nécessairement par cette personne, mais par les associations militantes de l'euthanasie qui sont présentes déjà dans les hôpitaux et à qui la loi confère le pouvoir exceptionnel de pouvoir agir en justice au pénal contre toute personne qui tenterait donc d'exercer des pressions, selon elle. Donc vous imaginez par exemple un aumônier d'hôpital. Le cas typique, parce que la personne elle est bien connue, elle vient régulièrement dans l'hôpital, elle vient dans les services de soins palliatifs. Eh bien, si cette personne commence à être prise en grippe par l'association pour l'euthanasie de l'hôpital, eh bien, parce qu'elle parle à des personnes et finalement les convainc de renoncer à l'euthanasie, eh bien, elle pourra être poursuivie en justice et donc être exposé à cette peine de 2 ans et 30 000. Ce délit d'entrave, il s'applique aussi aux établissements, parce que les établissements, tout établissement, y compris confessionnel, donc les petites sœurs des pauvres, les hôpitaux, les cliniques religieuses, auront l'obligation d'accepter la pratique de l'euthanasie.
Ouais, on avait déjà discuté de ça, effectivement, avec vous d'ailleurs, Grégoire Pupin, qui est également une bonne sœur qui était venue ici sur ce plateau, sur cette antenne. Je vous invite à retrouver d'ailleurs l'entretien si vous le souhaitez sur notre chaîne YouTube, chers auditeurs. Mais effectivement, alors, une question qui est aussi liée à ça, pardon, mais est-ce qu'il y aura quand même un droit de réserve à ce niveau-là, un droit à la conscience?
Alors, justement, la question de la liberté de conscience, en fait, le texte, effectivement, ne fait pas obligation aux médecins et aux pharmaciens, aux infirmières de pratiquer l'euthanasie. À l'inverse, il fait obligation aux pharmaciens de produire le substance létale à la demande. Et là, ne prévoit aucune liberté de conscience pour eux, alors même qu'ils participent directement. Et ensuite, il fait obligation, comme je le disais à l'instant, aux établissements d'accepter la pratique d'euthanasie. Ouais. Donc, encore une fois, si les petites sœurs des pauvres, par exemple, refusent de laisser entrer une infirmière qui vient avec la piqûre pour euthanasier l'un de ses résidents, eh bien, la directrice de l'établissement, donc la religieuse, pourra être poursuivie pour délit d'entrave.
Alors qu'on connaît, bon, globalement, évidemment, la situation des hôpitaux en France, c'est pas forcément ce qui va être plus pertinent à réaliser. Autre point qui est un petit peu lié à ça, il nous reste 3-4 minutes avant de la chronique d'Arthur de Vatrigan, Grégoire Pupinck. Simplement, évidemment, il y a aussi la loi pour le coup, alors qui passe beaucoup plus facilement sur les soins palliatifs, elle qui avance très vite justement dans son chemin législatif. Est-ce que le déploiement donc de centres de soins palliatifs à travers toute la France pourrait pas d'une certaine façon édulcorer les effets d'une loi euthanasie aussi violente, dans le sens où effectivement cette loi tient sa promesse et qu'on a effectivement des centres de soins palliatifs dans tous les départements, qu'on a justement une sorte de sensibilisation, de prévention sur les soins palliatifs dans toute la France, est-ce qu'on peut obtenir des résultats assez positifs aussi?
En théorie bien sûr, sauf qu'il faut pour cela des moyens. Or, déjà, en l'état actuel, la France n'investit pas dans les soins palliatifs.
Cette loi est là pour ça.
Pardon ?
Cette loi est là pour ça.
Vous pouvez faire autant de lois que vous voulez, mais si derrière, il n'y a pas le budget, ça ne sert à rien. Donc, une loi, c'est facile de dire sur le papier qu'il faut que ce soit comme ci, comme ça, mais il n'y a toujours pas de droit opposable aux soins palliatifs, c'est-à-dire qu'il n'y a toujours pas un droit qu'on pourrait réclamer en justice. Donc, ça reste quand même des imprécations. La vraie question, c'est le budget. Or, vous savez que, aujourd'hui encore, les soins palliatifs ne sont pas du tout au niveau de la demande et des besoins. Les soins palliatifs, ça coûte cher. Et l'idéologie qu'il y a derrière les promoteurs de l'euthanasie, l'un des aspects de leur idéologie, ça a toujours été utilitariste, en disant, écoutez, les personnes handicapées, ça coûte cher, les personnes âgées, les personnes malades, ça coûte cher, ça ne rapporte rien. En plus, leur vie n'a plus aucun sens, donc il faut les supprimer de la société et on va faire présenter cela comme une liberté individuelle, ça passera beaucoup mieux. Donc ça, c'est une constante dans la pensée des mouvements euthanasistes. Lorsque les soins palliatifs ont été développés à l'origine, les mouvements qui soutiennent l'euthanasie étaient opposés aux soins palliatifs, parce qu'ils voyaient dans les soins palliatifs une menace pour leur cause. Alors évidemment, il y a deux approches très différentes. Les soins palliatifs, c'est une question de choix pour la société. Est-ce que la France veut et prête à dépenser de l'argent pour des personnes qui, effectivement, ne rapporteront plus d'argent à la société et vont ne faire que coûter? Est-ce qu'on est prêt, par respect pour les gens, par charité, à dépenser cet argent pour que les personnes âgées malades aient vraiment une fin de vie digne, humaine? Ou est-ce qu'au contraire, au nom d'une fausse conception de la liberté, on préfère les achever ou leur permettre de mettre un terme à une vie qui semble être devenue absurde dans un monde athée et consumériste?
Oui, parce qu'en fait, d'une certaine façon, ce qu'on comprend dans ce que vous dites, on y reviendra dans 10 minutes, mais simplement de ce qu'on comprend effectivement de ce que vous dites, c'est que au-delà même de l'aspect législatif, il faut aussi une volonté sociale presque globale, et il faut aussi un assentiment de la population finalement pour arriver à ces à ces objectifs, à mener à bien ces objectifs. Merci Grégoire Pupin, vous restez avec nous. Hein. On vous retrouve dans 10 minutes. Simplement, tout de suite, on va passer à la chronique d'Arthur de Vatrigan.
7h, 10h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.
Et nous allons désormais retrouver donc Arthur de Vatrigan, directeur de la rédaction du journal L'Incorrect. Arthur, bonjour, je crois que vous êtes avec nous. De quoi est-ce que vous vouliez nous parler ce matin ?
De la fin du Festival de Cannes. Il y a eu cap de fin sur la croisette il y a quelques jours. Mmh. Donc Cannes a remballé son tapis rouge et finalement, on a eu assez peu de films, en tout cas des questions de pellicules dans cette 79e édition. Et du cinéma, en revanche, on a eu beaucoup, mais du cinéma, celui des postures et des concurrences de vertu. Celui, vous savez, où on monte les marches comme on monte en front, mais à condition que la guerre ait lieu devant les photographes et que ça rapporte des applaudissements quand on va au Bar Lounge après. Si vous vous rappelez, une tribune pétition avait lancé ce fameux festival contre, je cite, l'empire grandissant de l'extrême droite sur le cinéma, défense du rire. Voldemort va ressembler à Bolloré et le logo de Canal+ était régulièrement hué au générique des films projetés en guise de son remerciement pour le financement. Donc avec un tapis rouge et un micro, les résistants montent un maquis, ce qui est quand même assez sympa. En fait, on a quand même un monde de la culture qui ressemble de plus en plus à une église sans Dieu, mais avec des badges VIP. Il y a les purs, il y a les suspects, il y a les damnés. Alors le clergé porte le smoking et les robes Chanel. Il ne publie pas d'encyclique, mais ça lance des pétitions à l'appel et ça dénonce sur Instagram. Et la pétition est devenue un peu l'hostie de la secte. Et on la reçoit, on communie, on se montre et puis on repart absous. Mmh. Alors on signe évidemment pour sauver la culture, pour sauver la démocratie, les femmes, les migrants, les intermittents, les phoques, les papous, bref, tout le monde. Bah, sauf le petit peuple qui fait quand même tourner la boutique, parce que sans ticket, bah, finalement, il n'y a plus de financement. Mais cette fois-ci, il y a quand même un truc qui était assez intéressant, c'est que la liturgie s'est grippée. Parce que Maxime Saada, le patron de Canal+, a répondu, et c'est la première fois qu'on répond. Alors en substance, il a dit « Vous trouvez la chaîne fasciste ? Bah, très bien, je ne travaille plus avec ceux qui nous traitent de fascistes. » Et là, c'était panique totale dans la sacristie, parce que jusque-là, le courage ne connaît pas grand-chose. Hein. On pouvait insulter la main qui vous nourrissait à condition de continuer à la nourrir. On dénonçait l'argent du diable, mais il réglait quand même les factures. On se réveillait en Jean Moulin le matin, puis l'après-midi, on vérifiait que la coproduction signait bien le contrat quand même. Donc, on pourrait dire, on va remercier Maxime Saada d'épargner ce petit dilemme cornélien de « est-ce que je dois monnayer mon art avec le diable ?» Mais sauf quand on y regarde de plus près, bah, finalement, ils n'en avaient strictement rien à carrer de ce dilemme. D'autant que la résistance, la posture a porté et socialement et professionnellement et médiatiquement. C'est vrai que la résistance sans budget, c'est quand même un peu délicat. Et donc, on a vu une riposte s'organiser. Alors, les agents ont appelé tout leur répertoire, les groupes WhatsApp ont chauffé. Parce que le principe, c'était il y a 600 signataires, il faut une armée de signataires pour montrer qu'il y a un bloc.
Oui.
Et donc, ils ont hurlé au macartisme, bien que je n'ai pas le souvenir que les cocos s'hostolistaient pour ensuite se dénoncer d'être listés. Bref, c'était quand même assez intéressant. Et puis, ils avaient quand même oublié également qu'il y avait, vous savez, une queer palme qui est financée par Canal+. Mais ça, ils ont oublié de le dire. D'ailleurs, c'est quand même assez intéressant de voir qu'on demande une représentation des minorités dites sexuelles dans les compétitions officielles, mais on fait quand même des catégories minoritaires avec une récompense particulière. Mmh. Bref, on a vu ChatGPT tourner à plein régime. Il y a Le Monde et Libé qui attendaient le top départ comme ça. Les rotatives étaient prêtes, les consciences aussi. Et le chiffre monte péniblement. Alors, c'est intéressant, c'est que le Figaro a fait une petite étude. On a vraiment raclé les fonds de tiroir jusqu'au trognon, puisqu'on a trouvé des travailleurs du sexe, des historiens de tout et surtout de rien. Et donc, sous les lunettes noires, il y avait quand même les gouttes qui perlaient. D'autant que, nouveauté également, c'est que d'autres paroles commençaient à se libérer, selon la célèbre expression. On a vu Pierre Salvadori en ouverture défendre Canal+, on a vu Kastowicz défendre Canal+, on a vu Dominique Farrugia défendre Canal+, et beaucoup d'autres qui ne parlaient pas. Et quand on a une polarisation telle, le silence, ça signifie quand même quelque chose. Mmh. Et donc on a vu le décor fissuré. Le cinéma parle d'une seule voix, mais en fait, elle parle de la voix qui tient le micro. Et là, d'autres avaient saisi d'autres micros pour dire autre chose. Et donc, quand d'autres parlent, le cœur se révèle quand même bien moins impressionnant. Alors, heureusement, au même moment, il y avait deux films sous l'occupation qui étaient prévus pour être projetés, qui ont été projetés, notamment le très attendu Moulin, incarné à l'écran par Gilles Lelouch. Timing idéal pour se refaire la cerise, hein, évidemment, regarder les heures sombres, tout ça. Et un gauchiste en conférence de presse post-film a demandé à Gilles Lelouch s'il l'appelait à voter pour Mélenchon pour empêcher les héritiers de Klaus Barbie, à savoir le RN, d'arriver au pouvoir. Et la nouveauté également, le comédien l'a envoyé pète gentiment. Évidemment, ça crée le scandale. Et au bout de quelques jours, les quelques remontrances, parce qu'il n'avait pas resté le catéchisme, le comédien fait un petit message consensuel sur les réseaux sociaux. Car le résistant qui plie dès qu'il a un mauvais papier, imaginez le jour où on va lui arracher les ongles, il déballera tout, même ce qu'on ne lui demandera pas. N'empêche, il y a quand même une fissure, parce que depuis des années, le monde culturel, et particulièrement le monde du cinéma, parle en un seul bloc, et là, il n'y a plus le bloc. Et donc, les signataires peinent à devenir foule, ils arrivent à 3500 à ce jour, c'est quand même assez peu, et le courant devient le collectif Zappé Bolloré. Je pense que c'est eux qui vont finir par être zappés à ce rythme-là. Et on a vu la ministre de la Culture, dont je ne sais pas si vous connaissez sa tête ni son nom, en tout cas, moi, je ne les connais pas, qui est montée au créneau au Sénat, et pour, je cite, « dénoncer la riposte disproportionnée de Canal+, et surtout en ayant une pensée pour les 260 000 emplois de la filière du cinéma ». Le but contre son camp était magnifique, parce que 3 000 signataires contre 260 000 employés du cinéma, on se demande où est-ce que sont les 250 000 signataires manquants. Mmh. Alors on pourrait faire la liste, évidemment, de la France, mais aussi de l'international, puisque certains se sont gargarisés de voir des grands noms comme Javier Bardem, Ken Loach ou Walter Salles. On vous demande où est Spielberg et Christopher Lane et d'autres, bref. Mais si on commence à faire la liste, ça va nous renvoyer aux heures sombres, mais c'est vrai qu'on ne fait pas trop ça chez Radio Courtoisie. Donc la 79e édition, ça ne va pas rester dans les mémoires pour ses récompenses ni pour la sélection qui était jusqu'à présent pas très fascinante et pas très excitante, mais parce que pour la première fois, le vernis a craqué, l'hégémonie culturelle chancelle, et dans le petit théâtre antifascisme, on a vu les coulisses, et ce qu'on a vu, c'est une panique de pirentiers. Une petite secte à la dérive qui est paniquée à l'idée que le public ne croit plus à ses miracles. Et quand une secte panique et perd ses fidèles, elle crie toujours la persécution. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment.
Ouais, d'autant que effectivement, pour rester rapidement là-dessus, Arthur de Vatrigan, c'est que ce qui est fascinant, c'est que dans les personnalités même qui ont, on va dire, soutenu ou en tout cas suspendu leur jugement sur Canal+, par exemple, Mathieu Kassovitz, on ne peut pas le soupçonner de près ou de loin d'être en accord avec Bolloré idéologiquement ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que finalement, soit que la gamelle est trop bonne, soit que en réalité, peut-être que Canal+ n'est pas si fasciste que ça, mais dans le fond, en fait, ce qu'on comprend ne serait-ce que par le soutien de Kassovitz, c'est que le soutien, c'est surtout un soutien de principe qui permet de se racheter une petite conscience idéologique à peu de frais.
Canal+, c'est la première chaîne qui finance le cinéma. Mmh. C'est 170 millions d'euros par an, donc c'est un gros budget. Et Canal+ finance tout. Si vous regardez, ils financent des films d'une grande diversité. Alors, il y a une clause de diversité obligatoire, mais la diversité, étant donné qu'elle reste quand même quelque chose de très subjectif, vous pouvez justifier ce que vous financez, ce que vous ne financez pas. Et je rappelle qu'il y a la Queer Palm à Cannes qui est financée par Canal+. Donc évidemment, Canal+ ne fait pas de la censure. Moi, personnellement, je préférais qu'elle soit un peu plus regardante sur les films qu'elle finance, mais après, elle fait ce qu'elle veut, c'est l'argent du privé. Donc je pense qu'il y a une honnêteté dans ceux qui ont défendu Canal+. Kassovitz, le bureau des légendes, c'est Canal+. Dans ses films qu'il a lui-même réalisés ou coproduits, c'est Canal+. Mmh. Salvadori, qui n'est pas non plus un réactionnaire conservateur, je suis sûr que ce soit un centriste de droite, est financé par Canal+, et le dit. Farrugia, sont les nuls, il a vu que, en fait, à l'époque des nuls, sont les mêmes qu'aujourd'hui, c'est Canal+. Et voilà la réalité, c'est que, un, c'est un financeur, donc les types, s'il n'y a plus de budget, ils n'ont plus rien, et deux, ils n'ont jamais été emmerdés par Canal+. Il y a juste une honnêteté, ce qui est déjà assez rare, et puis des voix contraires, et pas qu'une voix.
Et ce qui est étonnant pour finir sur ce sujet, c'est qu'effectivement, je pense que ce que ne comprend pas la plupart du public aussi, c'est que Vincent Bolloré, qui pour le coup lui mène une vraie bataille idéologique dans ses chaînes de télévision, fasse passer effectivement cette Queer Palm ou alors l'histoire de Souleymane sur Canal+.
Parce que Canal+, c'est Maxime Saada, il y a un groupe qui s'occupe, qui est dédié au cinéma, et ce sont les mêmes personnes depuis 25 ans. Mmh. Donc Bolloré dit « voilà la direction », ensuite il y a des logiques financières, il y a des logiques légales, et puis il y a des gens qui s'y connaissent, et donc qui ont noué des liens d'amitié, des liens de confiance, et donc ils disent « voilà, c'est pour ça qu'il y a une grande variété, une grande diversité de cinéma ». Et l'histoire de Souleymane, c'est un film que je trouve très mauvais, très lâche, Parce que c'est quand même l'histoire d'un mec, le cinéaste dénonce l'exploitation d'un migrant par la petite bourgeoisie. Mmh. Or, lui-même utilise un acteur qui est un migrant sans papier pour dénoncer. Donc, on voit l'escroquerie, le film est vraiment mauvais et malhonnête. N'empêche, le film a fait 600 000 entrées pour un petit budget. Donc, en plus, c'est rentré dans ses frais. C'est Canal+, c'est une boîte, hein, c'est une industrie, et donc il y a aussi des logiques financières, et ils mènent la barque depuis si longtemps qu'ils font, voilà, ils ont trouvé leur équilibre entre rentabilité, prise de risque, diversité, amitié, et donc voilà, Bolloré ensuite fait sa croisade, fait son agenda, mais Canal+, n'est pas CNews, qui n'est pas Europe 1, qui n'est pas, voilà, chacun, il y a une grande variété à l'intérieur, et puis avec des personnalités qui ont quand même des caractères forts, et qui sont là depuis longtemps, et qu'on déboulonne pas aussi facilement.
Merci Arthur de Vatrigan, vous restez avec nous pour la suite de cet entretien avec Grégoire Pupin. Mes chers auditeurs, avant cela, je vous rappelle que Ligne Droite, si Ligne Droite est là, si vous pouvez l'écouter, si vous pouvez écouter Radio Courtoisie, c'est essentiellement grâce à vous.
C'est grâce à vous et à votre soutien financier, chers auditeurs, donc je vous invite à nous faire des dons en ligne en vous rendant sur cette adresse, notez-la bien, soutenir.rc.fr, et puis d'adresser vos chèques à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris, c'est très important et nous comptons sur vous.
Voilà, et vous pouvez même faire des dons dans le chat sur YouTube si jamais vous y êtes. N'hésitez pas, chers auditeurs, c'est un plaisir en tout cas de vous avoir avec nous ce matin. Tout de suite, on reprend notre entretien.
Ligne droite.
Nous avons la visite.
Le face-à-face.
Je retrouve donc Arthur de Vatrigan et Grégoire Pupin. Alors, on a pas mal abordé le sujet de l'euthanasie. Moi, il y en a un autre, évidemment, que je trouve assez préoccupant depuis ces derniers jours. C'est évidemment celui de la GPA, qu'on n'attendait pas tant que ça, finalement. Mais Arthur de Vatrigan, je me tourne vers vous. Là, il y a une sorte d'offensive menée par Gabriel Attal pour défendre la GPA. Selon vous, pourquoi? Il a dit lui-même qu'il voulait avoir un enfant avec Stéphane Séjourné, on ne sait pas dans quel cadre. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'il a besoin de quelque chose pour un chiffon agité pour sa campagne, ou alors que c'est une vraie conviction personnelle et progressiste de sa part? Est-ce que c'est plus de la stratégie? Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que c'est les deux. C'est pas la première fois qu'il parle de GPA, Gabriel Attal. Alors ensuite, qu'il mette Stéphane Séjourné, ses amants, son mari, dans sa campagne, il va le faire contre la campagne, puisqu'il a démarré comme ça. Mmh. Il a démarré en parlant de sa mère, de sa sœur, de sa petite sœur, son enfance de Cosette à l'école alsacienne. Donc on a compris qu'il allait étaler sa vie plus privée, qu'il allait la romancer et qu'il allait, ça allait devenir un instrument de campagne. Donc, est-ce qu'il a envie de faire une GPA lui personnellement? J'en sais rien, et à la limite, je m'en fous, mais en tout cas, c'est devenu un outil de communication. Ensuite, je pense qu'il est résolument progressiste, puisque ce n'est pas la première fois qu'il en parle, mais je pense surtout qu'en effet, vous l'avez dit, ça permet d'exister un peu, parce qu'à partir du moment où vous mettez un sujet sur la table qui ne fait pas encore consensus, ça crée le débat, et si ça crée le débat, on parle de vous. Mmh. Et enfin, quatrième chose, si vous remarquez, tous les sujets dits progressistes, sociétaux, ça permet surtout d'éviter de parler des sujets qu'on ne maîtrise pas ou dans lesquels on n'a plus les cartes en main, qui sont les sujets normalement que l'État devrait prendre en charge, en premier lieu le président. À partir du moment où vous n'avez plus les pouvoirs, que les empires sont plus forts que vous, que vous êtes soumis à l'Europe, et bref, vous avez les mains liées, bah, il faut montrer que vous gouvernez encore et que vous avez du pouvoir. Et dans ces cas-là, le plus simple, c'est d'aller dans la chambre à coucher des Français pour dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Ça montre que vous avez encore un peu de puissance pour cacher en fait votre impuissance réelle. Mmh.
Grégoire Pupin, l'euthanasie à nouveau, hein, bien sûr on pourra en hors discuter, mais semble quand même bien parti pour passer en France d'une autre façon. La GPA, est-ce que c'est pas un peu le dernier combat justement de tout ce camp progressiste d'ailleurs? Enfin, en fait, finalement, est-ce qu'il pourrait vraiment aller plus loin que ça?
Je pense que oui, bien sûr, il y a toujours des choses qu'on peut imaginer en matière de mœurs sur les questions notamment de l'âge, de la majorité sexuelle, où c'est un sujet qui est quand même lancinant dans ce que vous appelez le progressisme. Et qui a été introduit politiquement dans certains pays pour légaliser ce que nous on appelle la pédophilie en fait, hein, des relations avec des mineurs. en disant que c'est une forme d'attirance naturelle, etc., que c'est juste une orientation sexuelle comme une autre, et que les enfants aussi auraient le droit, etc. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ça existe déjà dans certains pays. Donc on peut toujours imaginer. Ensuite, il y a toutes les questions de transhumanisme qui sont aussi dans le fond de cette idéologie sur le fait de transformer le corps humain, de nous coupler à des outils électroniques et autres. Donc c'est aussi dans la pensée, dans cette pensée que vous qualifiez de progressiste. Pour que les auditeurs comprennent en fait la cohérence, le fondateur de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, donc de l'euthanasie, Pierre Simon, qui était un gynécologue français, grand maître de la Grande Loge de France, était aussi le fondateur du planning familial en France.
Ouais.
Et il était aussi fondateur de l'association Alma Mater, première association française pour la légalisation de la GPA. Donc pour ces gens-là, il y a une cohérence complète idéologique en essayant, dans la volonté, de maîtriser la vie. Maîtriser la vie de façon qualitative, façon eugéniste, et quantitative. Et donc, c'est une même matrice intellectuelle qui conduit à promouvoir ces différentes pratiques. Et c'est aussi une même matrice intellectuelle qui conduit à promouvoir ce qu'on appelle le transhumanisme. Ça veut dire l'idée qu'on doit contrôler la vie et pour l'améliorer. Et cette forme de dénaturation de la vie humaine. L'homme devrait, en fait, transformer la vie en un matériau qu'il peut totalement contrôler, maîtriser, améliorer, ne plus laisser d'aléas à la nature, éviter les handicaps de naissance, les handicaps congénitaux, refuser la déchéance physique par l'euthanasie ou le suicide, refuser les naissances d'enfants handicapés par l'avortement thérapeutique ou eugénique. Donc toute cette pensée, c'est une même matrice qui conduit également au transhumanisme, parce que des grands fondateurs de cette pensée, d'ailleurs, comme Julian Huxley, ou en France, le père Thierry de Chardin, étaient des eugénistes, étaient pour ces pratiques, et étaient aussi ceux-là même qui ont conçu le concept de transhumanisme. Donc ce que vous appelez progressisme, en fait, ce n'est qu'une vieille idéologie qu'on retrouve d'abord dans les cercles néo-darwiniens à la fin du 19e, et qui ensuite traverse tout le 20e siècle, ont été mis en œuvre aux États-Unis, ont été mis en œuvre en Allemagne, bien sûr, à la fin des années 30, et ce sont les mêmes associations qui, déjà fondées dans les années 20 et les années 30, continuent aujourd'hui leur action ou leur association directement issue pour promouvoir ces différentes causes. Donc il n'y a vraiment rien de nouveau, si ce n'est que la société est peut-être aujourd'hui moins vaccinée qu'elle ne l'était après la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça qu'on accepte peut-être facilement l'euthanasie alors qu'on l'aurait évidemment refusée en 1950 ou 60. Et puis que la société a une approche peut-être aussi davantage matérialiste de la vie et donc plus encline à accepter cette approche de volonté de maîtrise de la vie.
Et Arthur de Vatrigan, le pape vient de publier une encyclique qui effectivement parle essentiellement d'intelligence artificielle mais s'attaque également à la question effectivement de la dignité, la question de la vie, à la question du transhumanisme et du post-humanisme, qui sont deux termes justement qu'il mentionne dans cette encyclique. Est-ce que justement vous partagez la vision de Grégoire Pupin, selon l'idée que ce serait une sorte de continuum progressiste total, et que finalement en fait tout ça, pour le coup, reprend un petit peu plus Léon XIV, mais serait une attaque contre la vie qui serait digne naturellement en tant que telle.
Bien évidemment, je suis toujours d'accord avec Grégoire Pupin, et je ne comprends pas comment on ne peut pas être d'accord avec Grégoire Pupin. mais l'IA n'est pas sans lien, parce que l'étape d'après, si vous me le permettez, c'est dans cette volonté très ancienne, en effet, de vouloir éliminer l'homme de l'équation, l'intelligence artificielle, pour certains, va jouer un rôle. Le principe étant, au-delà, après d'avoir éliminé la nature physique de l'homme, l'imperfection qu'il considère comme imparfait, ils vont vouloir déresponsabiliser l'homme, c'est-à-dire lui enlever toute responsabilité. Et ça, c'est encore aussi un vieux projet qui date du 19e.
Ils veulent rendre l'homme tout puissant et le déresponsabiliser à la fois, c'est ça ?
Exactement. Exactement. Ils veulent enlever l'homme de la décision. Et leur rêve, c'est que ce soit l'IA qui décide. C'est le rêve technocratique absolu, c'est que l'homme ne décide pas parce que l'homme est imparfait. Donc, c'est l'IA qui va décider. C'est l'IA qui va décider des scénarios de guerre pendant des conflits. C'est l'IA qui décidera pendant des procès pour la justice. C'est l'IA qui décidera de telle politique ou de telle politique si vous avez encore un président en France, mais avec l'accord des Français, parce que comme l'IA étant juste une équation et des calculs, ils vous diront, vous aurez 90% ou 85% ou 95% de juste là-dedans, donc allons-y. Mais avant d'arriver à ça, il va falloir faire passer l'idée que l'IA est plus juste et donc plus équitable qu'un humain. Et donc, à partir du moment où vous avez ça, vous enlevez la responsabilité. C'est ce qui se passe dans les guerres. J'ai regardé ce qui se passe à Gaza. Tout est fait. Alors, c'est encore l'homme qui décide. Il y a encore une intervention humaine, mais c'est l'IA qui calcule les scénarios et qui calcule le nombre de victimes estimables pour gagner cette guerre ou pas. Mmh. Et je pense que l'étape d'après, c'est ça.
Grégoire Pupinck.
Oui, je dirais la notion d'homme, en fait. L'espèce de paradoxe là, que vous avez pointé sur cette idée d'élévation de l'homme et en même temps de soumission. Il faut comprendre que pour ces progressistes qui sont issus donc, des milieux néo-darwiniens, la notion d'homme, elle est abstraite. Ça veut dire, c'est pour eux l'homme idéal, l'archétype, l'homme le plus élevé dans l'évolution. Donc ils veulent que l'humanité, selon une conception abstraite, s'élève dans le processus d'évolution, y compris par la technique et donc le transhumanisme. Mais cela ne s'oppose en rien au fait que pour eux, seule une ultra-infime minorité est réellement à ce niveau supérieur, l'élite. L'élite biologique.
Oui, parce que ce que j'allais dire, effectivement, c'est que ce monde, il est désirable. Enfin, pour le coup, je pense qu'à peu près personne n'a envie d'y vivre. J'avais cette discussion l'autre jour avec Laurent Alexandre, hier avec Laurent Alexandre qui était à notre antenne, mais effectivement, qui aurait envie d'être soumis aux décisions de l'IA? Qui aurait envie de. Quel homme aurait envie de laisser sa place à l'IA? En réalité, personne.
Mais si, tout le monde. Je pense que de ce point de vue-là, je pense qu'effectivement, tout le monde aura une. Pour eux, de leur point de vue, l'humanité n'est pas égalitaire. Ça, c'est le darwinisme. Il y a l'immense masse de l'humanité qui ne sert à rien. Comme disait M. Macron, des gens qui ne sont rien. C'est-à-dire des gens qui consomment et qui polluent, et qui travaillent un peu, et qui font tourner la boutique. Ensuite, il y a ceux qui apportent à l'humanité. C'est-à-dire ceux qui sont des artistes, des intellectuels, des savants, des scientifiques, qui sont vraiment, pour eux, l'homme, l'humanité. Et donc, ces gens-là sont la fine pointe de l'humanité, comme disait Teilhard de Chardin, ou l'aile marchande de l'humanité, comme disait Teilhard de Chardin, qui, à l'époque, demandait ce qu'il fallait faire du poids mort de l'humanité consistant dans tous ces peuples arriérés, etc., africains et autres, qui polluent de leur point de vue. Donc, il y a une conception foncièrement inégalitaire, parce que le progressisme est nécessairement inégalitaire, parce que le progressisme est une dynamique de progrès qui laisse des gens derrière. Donc, pour eux, l'humanité doit s'élever et l'élite doit progresser en intelligence et en spiritualité, c'est-à-dire en capacité spirituelle intellectuelle. Et le reste, eh bien, pourra parfaitement se satisfaire d'une vie simplifiée, d'une vie facilitée, d'une vie organisée, d'une vie pacifiée, pour répondre aux besoins naturels. Je suis convaincu que le XXe siècle nous démontre à quel point l'élite politique progressiste estime pouvoir maîtriser ou manipuler l'opinion publique de la masse pour répondre à ses besoins. Il suffit de voir comment, par exemple, certaines révolutions, notamment la révolution sexuelle, ont été mises en place en Occident pour comprendre en fait que l'humanité a des besoins naturels. Si vous y répondez, elle sera parfaitement satisfaite. Et le premier de ses besoins, c'est la paix, la sécurité. Et donc, ce sera, je pense, tout à fait satisfaisant pour l'immense majorité.
Eh ben c'est réjouissant comme perspective. Merci Grégoire Pupinck d'avoir été avec nous ce matin. Merci Arthur de Vatrigan également d'être intervenu effectivement sur ce sujet. Gardons espoir, évidemment, rien n'est joué. Comme sur la question de l'euthanasie, on n'a pas eu le temps d'aborder en profondeur la question des solutions, mais enfin, ce sera pour une prochaine fois. Merci à vous deux et on vous dit à très bientôt ici sur Ligne Droite.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Alexandre de Galza.
Chers auditeurs, il est 8h14. Dans un instant, nous recevrons Alice Cordier pour sa chronique hebdomadaire. Et puis également Jean-Yves Le Gallou à 8h20 qui nous parlera de remigration. Mais tout de suite, un petit point sur l'actualité avec Alice Meunier.
Chers auditeurs, à l'occasion de l'Aïd el-Kébir, des appels à la prière islamique diffusés par haut-parleur ont résonné dans plusieurs villes de France, provoquant la colère de nombreux riverains. Des scènes qui interrogent donc sur le respect de la laïcité et du cadre républicain. Le Parlement hongrois a rejeté ce mercredi le projet de sortie de la Cour pénale internationale souhaité par Viktor Orban. Une large majorité des députés a voté contre ce texte présenté en 2025 par l'ancien Premier ministre nationaliste. Et moins d'un an après avoir levé plusieurs millions d'euros auprès des Français, Duralex s'apprête à demander son placement en redressement judiciaire. Ceci alors que donc la célèbre verrerie avait été sauvée par ses salariés devenus actionnaires via une SCOP et avait réussi une grande souscription populaire qui avait récolté plus de 20 millions d'euros. Et nous célébrons en ce 28 mai Saint-Germain de Paris et Saint-Ripsimé.
Merci beaucoup Alice.
Ligne droite.
Et nous passons d'une Alice à une autre, étant donné que je reçois donc Alice Cordier et Astrid donc du collectif Némésis. Est-ce que vous êtes bien avec nous?
Oui, bonjour Alexandre.
Bonjour Alexandre.
Bon, alors vous, aujourd'hui, vous vouliez nous parler de quelque chose qui n'est même plus une actualité pour Némésis. Vous avez un procès.
Oui, tout à fait Alexandre. On est actuellement à Besançon, et c'est la raison de notre absence en plateau physiquement aujourd'hui, parce que hier après-midi, nous avions le procès de Viona, membre éminemment connu du collectif Némésis, porte-parole, qui était en procès une seconde fois, face à Anne Vigneault, et on a assisté à un procès assez lunaire. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Astrid.
Mais c'était très tendu, c'était très éprouvant pour Viona. La défense a vraiment insisté sur le fait qu'elle était une ennemie des libertés. Ça les a beaucoup outrés parce qu'en fait, ils expliquaient qu'il fallait limiter cette liberté d'expression car c'était une ennemie de la liberté. Et tout a été autour de cette diffamation, pour le coup. Mmh. Vraiment cette diffamation de notre travail, de ce qu'on fait et de jeunes filles qui essayent d'aider des victimes.
Et pour remettre un petit peu le contexte, il faut savoir qu'en 2023, Viona était arrivée au carnaval de Besançon avec une pancarte « Violeur étranger dehors » qui avait suscité une polémique au sein du pays, un véritable débat sur la question de l'expulsion des violeurs étrangers, puisque ça s'inscrivait dans une loi proposée par Darmanin qui facilitait l'expulsion des violeurs étrangers. Et en fait, la maire de Besançon s'était opposée à cette proposition de loi de Gérald Darmanin, de ce projet de loi porté par lui, en expliquant que c'était le retour du fascisme, le bruit des bottes, etc. Et du coup, Viona avait fait cette action-là pour expliquer que nous, on était justement pour l'expulsion des violeurs étrangers, pour faciliter ça, et que derrière ces violeurs étrangers, il y a surtout des victimes. On l'oublie un petit peu. En tout cas, la maire de Besançon a tendance à l'oublier. Et la maire de Besançon avait condamné cette action. Et donc, en 2025, pour les vœux de la maire, Viona était arrivée aux vœux de la maire avec une banderole « Violeurs étrangers, bienvenue », en geste d'ironie, pour dire, en fait, si vous êtes contre l'expulsion des violeurs étrangers, c'est que vous êtes pour leur arrivée, en tout cas pour leur maintien dans le pays. Et elle avait balancé des petits tracts à l'effigie de la maire de Besançon, et avec ce slogan « Violeurs étrangers, bienvenue », comme ce qui est écrit sur la banderole. Et c'est ça qui lui reprochait, c'est de la diffamation selon l'ancienne maire de Besançon, d'ailleurs, parce que c'est les LR maintenant qui ont pris la ville, Anne Vigneault, qui considère que c'est de la diffamation. Et on était assez surpris parce que, visiblement, dans ce genre de cas, quand il s'agit de Marine Le Pen ou d'Éric Ciotti, c'est ce qui a été expliqué par notre avocat, là, on a le droit, par contre, à, par exemple, un certain nombre de mots plus ou moins violents.
Oui, il y a des salopes fascisantes, notamment pour Marine Le Pen. Et c'est vrai que... et surtout, il faut savoir que ça a été requalifié. C'est-à-dire qu'au début, la plainte avait été portée pour... C'est quoi l'incitation à la haine. Et finalement, ça a été requalifié en diffamation parce que ce n'était pas attaquable pour incitation à la haine. Donc en fait, tout ça, c'est vraiment très, très politique. Et ils veulent absolument punir Yona. Ils veulent, hier, la procureure demander 175 heures de travaux d'intérêt général.
Oui.
Est-ce que ça ira jusqu'au bout? On ne sait pas. Il y aura le verdict le 3 juillet. Mais en tout cas, nous, on espère vraiment qu'ils vont statuer différemment parce que ce serait honteux de mettre autant pour une jeune fille qui a juste voulu faire de l'ironie face à une mère d'une ville complètement pro-immigration et qui peut mettre les jeunes femmes en danger.
Merci beaucoup Astrid, merci beaucoup Alice. On souhaite bon courage évidemment à Yona dans toutes ces épreuves. On imagine que ça ne doit pas être simple pour elle. On lui apporte tout notre soutien. Merci à vous d'avoir porté sa voix aujourd'hui et on vous dit à la semaine prochaine ici sur Ligne Droite.
Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Ligne droite, débattons-en.
Et pour ce nouvel entretien, eh bien, nous allons parler remigration. Et qui de mieux pour parler remigration que le porte-parole de cette idée en France, Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Jean-Yves Le Gallou.
Bonjour.
Alors, je rappelle que vous êtes, pour nos éditeurs qui ne vous connaîtraient pas, président de Polémia. Vous avez été aussi député européen. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages, dont Mémoire identitaire 1968-2025, Les dessous du grand basculement chez Via Romana. D'ailleurs, j'y pense comme ça, mais effectivement, le magazine Élément, dont vous êtes proche, publie également un magazine donc, sur la remigration.
Oui, qui a été, le numéro qui vient de sortir, qui est disponible dès maintenant en kiosque. Voilà. Est consacré à la remigration avec un reportage d'Antoine Dress sur un débat qui a eu lieu à Vienne entre Renaud Camus et Martin Selner. Donc c'est intéressant parce que c'est deux optiques différentes.
Oui, l'activisme et l'intellectualisme.
Et d'un certain point de vue, la remigration comme réponse au grand remplacement. Il y a aussi un article avec Lionel Ballan qui fait le point sur les positions d'un certain nombre de partis institutionnels en Europe sur la remigration. Donc c'est un numéro tout à fait intéressant.
Et surtout, voilà. Dans ce numéro et dans ce dossier, on trouve un entretien avec Jean-Yves Le Gallou. Voilà, alors justement dans cet entretien, alors étant donné que je donne des petits coups de main à Élément, j'ai pu le voir un petit peu en avant-première, et effectivement, ce que vous expliquez, c'est déjà que la remigration est quelque chose de vital, donc c'est-à-dire nécessaire à notre survie.
Vital.
Et ensuite, vous parlez également même des moyens concrets de réaliser cette remigration, mais simplement effectivement sur cette question de la nécessité absolue, la nécessité vitale de réaliser la remigration. Pourquoi ?
Tout simplement.
Pour qui déjà ?
Parce que s'il n'y a pas de remigration, les Européens seront minoritaires sur la terre d'Europe d'ici un certain nombre d'années, d'ici la fin du siècle, et ils seront minoritaires dans les maternités. Il y aura plus de nouveau-nés extra-européens que de nouveau-nés européens, et à partir de ce moment-là, les Européens seront minoritaires. Et quand on voit la situation des Blancs en Afrique du Sud, minoritaires, persécutés, c'est pas très enviable. Et c'est pour ça d'ailleurs que le livre que j'ai publié, Remigration, s'appelle « Pour l'Europe de nos enfants
».
Car c'est ça l'aspect vital, indépendamment, je dirais, de tous les aspects quotidiens. Si on veut vivre plus tranquillement, et bien on vit mieux avec des gens qui vous ressemblent, avec des gens dont on partage les habitudes, les coutumes, qu'avec d'autres personnes. C'est ce que les Grecs appelaient la philia. Ça, c'est la raison pour maintenant. Et la raison pour demain, c'est de rester, que les Européens restent majoritaires sur la terre de leurs ancêtres.
Mais alors, finalement, évidemment, ça signifie que si la remigration est une nécessité vitale, c'est parce que le vivre ensemble, ou même le vivre côte à côte, selon vous, n'est pas possible.
Bah, si vous voulez, vivre ensemble, c'est la propagande qu'on nous raconte depuis 40 ans, 50 ans pratiquement. Si ça marchait, on le saurait. Et on voit très bien que ça ne marche pas, tout simplement d'ailleurs parce que les gens préfèrent vivre avec des gens qui leur ressemblent. Mmh. Vous savez, dans le discours...
Mais il y a une question entre, pardon, il y a une différence entre préférence et nécessité vitale.
Bah, je vais vous répondre. On dit parfois, à propos de l'immigration, on les a mis dans des ghettos, etc. Mmh. C'est totalement faux. On a assisté dans les quartiers HLM, notamment, à ce qu'on peut appeler le white flight, c'est-à-dire les Blancs sont partis. Mmh. Pourquoi ils sont partis ? Bah parce que la vie leur était moins agréable qu'ailleurs, et elle leur était même parfois franchement désagréable. Mmh. Donc ça, c'est de l'observation concrète, c'est pas de l'idéologie, là, c'est des faits.
Et alors, la raison qui nous amène l'actualité quelque part remigratoire au-delà de ce numéro, cet excellent numéro d'éléments d'ailleurs qu'on vous invite à vous procurer en kiosque, la nouvelle actualité remigratoire, c'est le sommet de la remigration,
oui.
Où Maëlys Clauzel est partie, vous ne l'avez pas aperçu à l'antenne malheureusement, mais elle est partie il y a une heure pour aller prendre son avion et s'y rendre, mais vous, vous y rendez aujourd'hui ou demain, on imagine.
Je m'y rends demain,
voilà,
oui.
Demain. Et alors, expliquez-nous un petit peu, parce que sommet de la remigration, évidemment, le nom on dit beaucoup, mais qu'est-ce que c'est? Qui est là? Quel est le projet? Qui lance ça? Expliquez-nous un petit peu.
Alors, d'abord, il y a eu un premier sommet de la remigration à Milan l'année dernière. Ça, c'est le deuxième. Je pense qu'il y aura une manifestation d'importance sur la remigration en France au courant de l'automne. Quel est le sens de cette manifestation? Je crois que ce qui est absolument important dans ce type de manifestation, c'est que c'est une manifestation européenne. Mmh. Et c'est principalement une manifestation de jeunes européens. Alors vous me direz, c'est pas mon cas en ce qui concerne
vous
l'âge.
Vous avez été un jeune européen.
Et j'ai été un jeune européen et je souhaite qu'il y ait demain de jeunes européens. Mais c'est une manifestation essentiellement de jeunes européens qui veulent rester européens. Et par-delà, toutes les frontières intérieures de l'Europe.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est un mouvement, c'est une manifestation, on va trouver des gens qui vont venir de Norvège, qui vont venir d'Italie, qui vont venir des Pays-Bas.
Qui veulent travailler ensemble, en fait.
Et qui veulent travailler ensemble, et surtout qui ont la conscience que le problème qu'ils ont, comme Norvégiens, comme Suédois, comme Français... ou comme espagnol, est le même.
Mmh.
Voilà. C'est-à-dire que chaque Européen, quel que soit son pays d'origine, est confronté à la même réalité, c'est-à-dire une réalité qui est une réalité d'invasion migratoire.
Mmh.
Et donc ça, c'est le premier élément de conscience commune. Mmh. Voilà. Ils savent qu'au fond, ils sont plus proches d'un autre Européen qui peut éventuellement parler une autre langue qu'eux, qui a une autre histoire qu'eux, que des gens dont on dira qu'ils ont la même nationalité que la leur, mais qui est une nationalité administrative, qui n'est pas une nationalité historique, qui n'est pas une nationalité affective. Ouais. Voilà, ça c'est le premier élément. Et ce qui facilite cela, si vous voulez, parce que au fond, ça aurait pu exister il y a 10 ans ou il y a 20 ans, et ça n'était pas le cas, ce qui facilite cela... Bah, c'est deux choses. D'abord, alors je sais que sur Radio Courtoisie, ça va pas être très bien vu, mais il y a l'anglais qui est devenu une lingua franca. Alors je rassure quand même...
Non mais dire que l'anglais est devenu une lingua franca, vous rattrapez très bien votre phrase, c'est parfait.
Bon, alors, je précise quand même pour les auditeurs de Radio Courtoisie que je m'exprimerai en français. Ouais. Je serai traduit.
Bravo.
Voilà. Mais il y a...
Par choix ou par nécessité ?
Alors, je vais être tout à fait honnête, par choix et par nécessité. Voilà, oui, oui. Oui, les Français, parfois, moi j'ai vu ça quand j'étais au Parlement européen, les Français parlaient exclusivement français en expliquant que c'était un oui. choix idéologique qui correspondait parfois à une certaine carence linguistique. Donc, par choix et par nécessité, donc je parlerai français, mais la langue qui permet à tout le monde un peu de se parler... malgré tout, c'est l'anglais.
Mmh.
Et le troisième élément, qui est alors là tout à fait récent, c'est qu'il y a désormais une communauté sur les réseaux sociaux qui fonctionne grâce aux traditions, grâce aux traductions automatiques. Hein, voilà. Là, c'est l'IA qui a des défauts, on le sait, mais qui a aussi des qualités formidables. Grâce aux traductions automatiques, on sait ce qui se passe. Il y a une communauté de remigration, finalement, qui sait ce qui se passe au Portugal, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne. Et ça, ça n'existait pas il y a simplement quelques années. Donc, c'est un mouvement européen, c'est une dynamique européenne qui vise effectivement à faire rentrer le terme et ce que comprend le terme dans le débat public et ensuite à amener les différents partis politiques dans les différents pays européens à reprendre telle ou telle partie de la remigration, parce que on peut avoir des visions plus ou moins extensives de la remigration, mais ce qui importe, c'est que le mot soit dans le débat. Et surtout, ce qui est important, si vous voulez, c'est le renversement copernicien, puisqu'on était jusqu'ici sur une thèse, il y a de l'immigration, comment va-t-on faire pour la réguler ou la limiter ? Là, on est dans une logique différente, on est dans une logique d'inversion des flux migratoires, on est dans une logique de retour, et c'est la condition pour redevenir maître chez nous.
Et alors, à ce moment-là, quelque chose que vous décrivez qui me paraît assez important tout de même, c'est que on a l'impression que, effectivement, à l'appel, notamment d'ailleurs d'influenceurs, hein, globalement, comme d'activistes comme Martin Selner, Eva Vlaardinger-Brock ou d'autres.
Qui sont les deux personnalités les plus marquantes de ce mouvement. Et qui sont en train de créer, qui vont annoncer la création donc à Porto d'un institut de la remigration pour rentrer aussi dans le fond du sujet, étudier les différentes problématiques qui méritent de l'être. Je pense par exemple quel pourrait être l'impact de la remigration sur la démographie européenne. Moi, je pense que ça pourrait être un levier pour un relèvement de la démographie européenne, quel est l'impact de l'IA par rapport à l'immigration de travail. Il y a beaucoup de sujets qui peuvent être abordés, et donc je pense qu'ils vont annoncer la création d'un institut de la remigration. Pardon, mais je vous avais coupé.
Cet institut, on imagine que vous y participerez d'une façon ou d'une autre aussi, Jean-Yves Le Gallet, cet institut de la remigration.
Oui, certainement. Alors, je ne serai pas d'ailleurs le seul Français à Porto à intervenir. Oui. Il y aura notamment Louise Garnier qui est appelée, je pense, à prendre des responsabilités de la cocarde de Sciences Po, qui est en master à Sciences Po, qui est très, très active à la fois à la cocarde et je crois chez les natifs, et qui va prendre des responsabilités aussi dans ce domaine et qui interviendra à Porto.
Et alors, justement, ce qui est assez marquant, c'est là où je voulais en venir en parlant des influenceurs, c'est que, d'une certaine façon, ce sont des personnalités qui ne sont pas forcément des écrivains, qui ne sont pas forcément fait connaître par les médias traditionnels, qui se sont fait connaître finalement notamment par les réseaux sociaux et donc qui ont touché un public jeune. Ce qu'on observe beaucoup, c'est que la génération qui est née, on va dire, entre 1995 et même 2010, en fait, est particulièrement sensible à ces questions migratoires. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de génération remigration quelque part qui serait peut-être un peu plus la mienne que la vôtre ?
Ah oui, tout à fait. Je pense tout à fait. Moi, si vous voulez, j'assure régulièrement des formations à l'Institut de formation politique sur la question de l'immigration et maintenant de la remigration depuis 2015. J'ai vu, vous voyez, en 10 ans, les populations qui suivent l'Institut de formation politique, donc des jeunes plutôt conservateurs libéraux pour faire simple, hein, mais de plus en plus identitaires, ont une prise de conscience de cette question de l'immigration et de la nécessité de la remigration qui est croissante. Alors, ce n'est qu'un échantillon de la population, mais je crois que c'est très révélateur. Je voudrais dire d'ailleurs une chose par rapport aux réseaux sociaux. Moi, je reste un homme de l'écrit, j'écris des livres, je pense que c'est important, je pense que le principal écrivain en la matière, c'est Renaud Camus, qui lui aussi écrit des livres, ce qui ne lui interdit pas d'être présent d'ailleurs sur les réseaux sociaux.
C'est tout à fait, oui, il est particulièrement comique, effectivement, il faut
le
dire.
Donc, mais si vous prenez des gens comme Martin Selner, où Eva Martin-Zellner a écrit un livre d'ailleurs sur la remigration.
Oui, tout à fait. Hein,
c'est mon préfacier dans Remigration pour l'Europe de nos enfants. Il a écrit un livre en allemand qui est tout à fait intéressant. Donc, il pense le sujet.
À traduire, Jean-Yves Le Guéno.
Mais à traduire, absolument. Mais je crois que Rushdie devait le traduire. Mmh. Et donc, si Rushdie ne le traduisait pas ou ne l'éditait pas, on le ferait de notre côté, je pense. Oui, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Si vous regardez simplement les tweets de Martin Zellner ou d'Eva, il y a du contenu, il y a de la réflexion. Mmh. C'est pas simplement de l'invective ou de la formule, il y a beaucoup de contenu, beaucoup de réflexion.
Alors après, ce qu'on peut...
Et qui circule sur tout l'espace européen, et je pourrais même dire sur tout l'espace européen, pas seulement au sens géographique, mais au sens de peuplement européen, puisque ça circule aussi au Québec, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, ce qu'on appelle souvent l'Occident, effectivement.
Alors justement, ce qui est assez intéressant, notamment, moi j'avais rencontré à quelques reprises Eva Lardinger-Brock, donc, qui est, je précise pour nos auditeurs qui ne la connaîtraient pas, mais activiste influenceuse, mais bon, le terme est généralement un petit peu dépréciatif qu'on l'utilise.
Honnêtement, c'est très dépréciatif parce que elle ne vend pas des sacs Chanel.
Non, voilà, c'est ça.
Elle défend des idées qu'elle
Vend pas des sacs Chanel, elle défend la remigration.
Oui.
Alors, forcément, voilà. Mais non, mais effectivement, donc, qui est une activiste militante, on va dire, activiste sur les réseaux sociaux, qui compte plusieurs millions d'abonnés néerlandaises. J'ai eu l'occasion de la rencontrer à quelques reprises. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que, par exemple, prenez ses idées politiques, elles sont en fait assez différentes de nombre également d'identitaires en Europe. Je pense notamment sur la question de la Russie, sur la question même des vaccins, sur la question de la liberté d'expression. En réalité, il y a quand même des variations finalement entre toutes ces... quelque part, il y a 50 nuances de remigration, d'idées remigratrices. C'est-à-dire
on peut être d'accord sur la remigration, et pas forcément avoir exactement la même vision géopolitique, la même interprétation géopolitique de ce qui peut se passer en Ukraine, en Iran ou ailleurs, ça c'est sûr. Et on peut aussi avoir des visions un peu différentes sur les politiques sanitaires, etc. Je crois qu'aujourd'hui, le sujet central, le sujet le plus important, c'est celui de la remigration, parce que ça change la substance du peuple. La géopolitique, c'est important, mais ça ne change pas la substance du peuple. Voilà. Je pense que tous les gens qui vont se retrouver à Porto seront globalement d'accord sur ce sujet-là, mais ils peuvent avoir évidemment des opinions différentes, voire opposées sur d'autres sujets.
Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, finalement, ce qui réunit tout le monde, effectivement, c'est ce sujet de la lutte contre l'immigration et a fortiori donc la remigration. Alors justement, même sur la remigration, finalement, tout le monde n'est pas forcément d'accord sur ce que ça veut dire. C'est-à-dire que globalement, même vous n'auriez pas forcément la même définition de la remigration que moi, que d'autres personnes plus radicales, moins radicales. Déjà, quelle est la définition de base que vous apposez à la remigration ?
Alors, la première définition, c'est le retour d'une partie plus ou moins grande, c'est là qu'il y a c'est la question du curseur, des immigrés extra-européens présents sur le sol européen. C'est l'inversion des flux. C'est aussi l'expression qu'a utilisée Zemmour, l'immigration négative.
Oui.
C'est la première...
Donc avoir un solde migratoire négatif, c'est-à-dire avoir plus de personnes qui partent que de personnes qui arrivent.
Voilà. Alors, c'est déjà un programme très vaste.
Oui.
C'est un programme très vaste qui suppose notamment, et ça c'est un élément que j'ai beaucoup développé dans mon livre, qui suppose le juge exit. Parce que sans juge exit, on ne peut rien faire. Moi, j'écoute, voyez-vous, ce que dit M. Édouard Philippe, ce que dit M. Attal ou ce que disent M. Darmanin, qui parlent tous quand même d'immigration, de pause, de...
Gérald Darmanin veut arrêter l'immigration pendant 3 ans.
Voilà, de moratoire. Or, tout ça n'est possible, mais ça, ils ne le disent pas. Tout ça n'est possible que si on retire au juge le pouvoir sur l'immigration. Et notamment qu'on retire au Conseil constitutionnel la possibilité de censurer les lois. C'est-à-dire que, voyez-vous, moi, ce que je propose, ou ce que propose Martin Zellner dans son livre, enfin, ça suppose de retirer le pouvoir au juge sur cette question.
Oui, ou alors,
mais
ou alors
ce, que propose, pardon, mais ce je... que propose Monsieur Darmanin, Monsieur Attal ou Monsieur Philippe, ça suppose aussi de retirer, mais ça ne le disent pas, de retirer le pouvoir au juge. C'est pour ça qu'ils disent cela, parce que ça permet de faire parler d'eux, ça permet de faire croire à l'opinion qu'ils feraient quelque chose. Ils se gardent bien de dire ce qu'il faudrait faire pour y parvenir.
Alors, d'ailleurs, juste, je vois un commentaire d'un auditeur que je trouve très bien. Immigration négative, une erreur de communication de Zemmour, il faut dire remigration positive.
Oui,
c'est vrai que c'est plus, c'est plus chantant.
C'est plus chantant. Oui, il a raison. Il a raison.
Et puis, non, effectivement, à côté de ça, donc, cette question des juges, qu'on peut aussi contourner avec, par exemple, ce que propose le Rassemblement National, un référendum, pour le coup, que ne pourrait pas outrepasser le Conseil constitutionnel.
Oui, alors, si vous voulez, je crois que le sujet central de 2027, quel que soit l'élu d'ailleurs, quel que soit l'élu, il ne pourra se passer quelque chose de sérieux en matière d'immigration et de remigration qu'à partir d'un référendum constitutionnel pris dans les semaines qui suivent l'élection présidentielle. Et à travers l'article 11, parce qu'il ne faut pas que le Conseil constitutionnel censure le texte soumis aux Français. Donc, l'élection présidentielle, le président de la République, s'il veut exister à partir de 2027, il doit passer par une mise au pas du Conseil constitutionnel dans les premières semaines. Voilà. Ça, c'est très clair.
Vous êtes contre l'état de droit, Jean-Yves Le Gallo ?
Pardon ?
Vous êtes contre l'état de droit, Jean-Yves Le Gallo ?
Non, je ne suis pas contre l'état de droit, je suis contre la dictature des juges.
Bon, alors, donc ça, effectivement, c'est ce premier point. Donc ça, c'est une condition, effectivement, trouver un moyen, en tout cas, d'une façon ou d'une autre, de contourner, là, effectivement, cette... on va dire dictature, cette censure législative opérée par des juges de gauche. Ça on est d'accord. Mais après, effectivement, sur la question de qui remigrerait d'une certaine façon, c'est là que la question est la plus sensible. Parce qu'on se rappelle de ce qui s'était passé, par exemple, il y avait eu un scandale il y a 2 ans maintenant, pour les élections, un peu avant les élections européennes de 2024, où le parti de l'AFD avait été accusé de promouvoir une remigration qui aurait été la remigration aussi de nationaux de personnes extra-européennes de nationalité allemande qu'on aurait expulsées d'Allemagne pour les renvoyer dans d'autres pays. Et se pose toujours cette question, c'est en réalité une personne qui, par exemple, est née sur le sol français, a une double nationalité, par exemple franco-algérienne au hasard, effectivement, qui n'a jamais mis le pied sur le sol algérien, peut-on la renvoyer, enfin l'envoyer en Algérie quelque part ?
Alors moi je traite le sujet, c'est le sujet le plus délicat.
Oui.
C'est pas le sujet à traiter... immédiatement. Dans la remigration, il faut être de manière progressive, donc la première forme de remigration, c'est l'arrêt d'immigration nouvelle, parce qu'à ce moment-là, vous avez des soldes négatifs. Ensuite, c'est l'expulsion des clandestins. Il y en a 1 million, il y a du boulot. C'est l'expulsion des délinquants. Il y en a pas mal, il y a du boulot. C'est le non-renouvellement des titres de séjour des étrangers qui vivent, en fait, d'aide sociale. Donc là, vous avez beaucoup de travail. Alors, je ne me dérobe pas à votre question. Je ne me dérobe pas à votre question. La question des binationaux. La question des binationaux, moi, je distingue trois grandes catégories. Je distingue trois grandes catégories. Les binationaux assimilés, ils peuvent rester, il n'y a pas de problème. Les binationaux inassimilés, mais pas hostiles. Si on peut les encourager à repartir, c'est mieux. Mais,
ou à s'assimiler dans le cas contraire.
Ou à s'assimiler dans le cas contraire, s'ils le peuvent, bien sûr. Reste le cas des binationaux hostiles. Alors, je vais vous donner 2 exemples de binationaux hostiles.
Malheureusement, très rapidement, en une minute.
Les gens qui agressent les rugbymen à Crépol, ce sont des binationaux hostiles. Les gens qui déboulent en bande et qui créent le désordre sur la plage de
La Baule,
ce sont les binationaux hostiles. Et donc, les binationaux hostiles, en gros, c'est les binationaux délinquants. Les binationaux délinquants, je pense qu'ils doivent être déchus de leur nationalité. Mais encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup de remigration à faire avant d'aborder cette question-là. Mais je ne me dérobe pas à cette question. Et d'ailleurs, dans les débats que j'ai eus autour de mon livre, je suis parfois accusé d'être un peu laxiste parce que je ne renvoie pas tout le monde.
Vous traînez comme dans un milieu particulier.
Et parfois, d'être trop excessif parce que j'aborde aussi cette question-là. Mais ce n'est pas la première question à aborder.
Oui. Merci Jean-Yves Le Gallou. Il y a d'autres sujets qu'on aurait pu aborder aussi dans cet entretien, mais écoutez, ce sera sans doute pour une autre fois. Voilà. Et puis, pour ceux qui en souhaiteraient un résumé condensé, dans le dernier numéro d'Éléments, il y a 3 pages d'entretien avec Jean-Yves Le Gallou que je vous invite à lire, bien sûr. Merci Jean-Yves Le Gallou d'avoir été avec nous. Bon sommet de la remigration à vous.
Merci
beaucoup.
Et puis,
à bientôt ici sur Ligne Droite.
Merci à Ligne Droite.